La créatine, c'est à des fins de performance. Mais ça ne joue en rien de manière directe sur l'hypertrophie ou la récupération ou la musculation. Ne pas manger un repas lourd doit être indispensable. Parce que qui dit repas lourd dit thermogénèse. Pareil pour ta glycémie. Si tu manges un repas riche en glucides, au lieu qu'elle redescende rapidement quand tu t'es mis au lit, elle va descendre à 2-3 heures du matin. Sauf qu'en fait, pour que l'hormone de croissance monte, puisque l'hormone de croissance est une hormone antagoniste à l'insuline, ce serait idéal qu'elle commence à monter un petit peu avant. Le top parce que ta réserve de glycogène se vide rapidement et le corps switch. Va utiliser le gras comme énergie.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026.
Allez, un nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir le H. Comment tu vas ?
Salut les gars. Déjà, c'est le retour sur la chaîne parce qu'on avait déjà fait un épisode 1 qui était top. Vraiment, merci de la première invitation et de la deuxième. J'espère que vous allez bien.
On est très heureux de te recevoir une nouvelle fois. On est avec Pierre de 1000%. Ça va ?
Salut les gars. Ben, ravi de re-recevoir le H. Et cette fois-ci, c'est lui qui nous a proposé les sujets du podcast. Et donc, il nous a donné un peu de travail. C'est bien, parce que ça, il y a toujours matière à réfléchir sur les sujets.
Après, ça bosse sur 1000%. Hein. À chaque épisode, on essaye de faire mieux. Le H nous avait dit qu'il y avait eu des retours négatifs parfois sur le premier épisode. Alors nous, on bosse. Sachez que sur 1000%, on est des élèves à vie. On est là pour apprendre et pour progresser. Donc aujourd'hui, on a travaillé. L'idée, ça va être de trouver une synergie entre toute la capacité du coach à venir accompagner son élève et aussi que nous, on puisse répondre sur nos capacités de kiné, d'ostéo, de préparateur physique et de tout ce qu'on a pu apprendre à travers 1000%. Donc le H, déjà, comment t'appréhendes en fait des élèves que t'as qui ont des blessures, des douleurs? Quelle est ton approche?
L'approche, c'est toujours de remonter. Tu prends un élève qui me dit « j'ai mal à l'épaule ». D'accord. Déjà, tu établis le niveau de douleur. Quand est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est juste pendant l'exécution? Est-ce que c'est toute la journée? Est-ce que ça s'accentue le soir? Etc. etc. Vous connaissez ça. Une fois que tu as ces réponses, en fonction de ça, tu essayes d'analyser la source. Pas de guérir directement. Et la source, c'est est-ce qu'il y a des déséquilibres musculaires? Ce qui est très souvent fréquent. C'est fréquent parce que tu as le syndrome du miroir, en anglais c'est quelque chose de différent. Tu entraînes plus et tu entraînes mieux ce que tu vois. La faiblesse de la chaîne postérieure, ce n'est pas un mythe, c'est quelque chose qui est vraiment réel. Non seulement on l'entraîne moins, donc c'est tout le dos, rotation externe, fessier, ischio, etc. On l'entraîne moins et comme on ne le voit pas, on l'entraîne aussi moins bien. Donc c'est là que, à partir du moment où tu as un déséquilibre musculaire, tu augmentes tes chances de blessure. Ensuite, la qualité de mouvement, comment la personne exécute son exercice, quel qu'il soit. Une fois que tu regardes ça, tu analyses ça, tu as déjà vraiment la matière pour comprendre d'où vient la blessure.
Le principal, c'est l'écoute. Est-ce qu'on peut partir sur cette chaîne postérieure? Tu nous en as déjà parlé en off. J'ai l'impression que c'est un socle de santé pour toi, cette chaîne postérieure.
Bien sûr, parce que, et vous allez affirmer ou non, la plupart des pathologies sont l'épaule, donc le coiffeur rotateur. Pourquoi? Parce que les blessures à l'épaule surviennent car on entraîne les muscles qui sont superficiels, deltoïdes antérieurs, postérieurs, médials, mais on n'entraîne pas les muscles profonds stabilisateurs qui sont la coiffe, les quatre petits muscles. Si tu n'entraînes que les muscles superficiels, tu n'as pas ce qui va stabiliser l'articulation Et si ton articulation est instable, c'est là que tu peux créer des pathologies qui vont s'aggraver en fonction des répétitions avec le temps, etc. Pas de rotation externe de l'épaule, tu as ton épaule qui va partir en avant sur un mouvement basique. Si ce mouvement basique, qui est le mouvement roi pour les pecs ou pour tout gros muscu qui est le développé couché, si en plus de ça, où tu as l'épaule qui part en avant, parce que tu n'as pas renforcé la partie externe, ta coiffe, si en plus tu ouvres trop les coudes, là non seulement tu as ton problème de déséquilibre musculaire et de rotation interne, mais tu as aussi, et ça vous savez très bien, la tête de l'humérus qui va frotter à l'acromion en fonction de l'ouverture des coudes. Tu vois? Donc ça, empilé à ça, ça fait des petites choses qui, à répétition sur long terme, vont causer inflammation, donc tendinopathie qui vont, si non traitées, causer des ruptures partielles, voire totales, conflits sous-acromial, etc. Là, c'est juste pour parler de l'épaule, la chaîne postérieure.
Ouais. Alors c'est vrai que moi, personnellement, j'ai pas que des épaules, j'ai un peu toutes les pathologies, mais c'est vrai que ce déséquilibre et cette garantie d'avoir un bon geste technique, c'est vraiment des garde-fous. Ce que j'aimerais te dire aussi, c'est que la douleur, parfois, c'est une douleur qui donne une information. Je t'ai écouté sur d'autres podcasts où tu disais l'imagerie va vraiment valider le diagnostic. Je suis pas totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment les signes cliniques avec l'ensemble du contexte par imagerie qui va nous permettre de savoir. Il y a des gens qui ont rien aux imageries et qui ont d'énormes douleurs, tu vois, et des gens qui ont des hernies discales ou qui ont rien à l'imagerie et qui vont rien avoir, tu vois. Donc l'imagerie me donne un objectif, mais vraiment l'alerte qui parfois va demander aux patients de vraiment s'intéresser à cette zone-là parce qu'il y a vraiment un déséquilibre, quelque chose à faire.
Il y a pas mal de choses à dire sur les problématiques sur le geste sportif, que ce soit, tu parlais de la coiffe de rotateur qui n'est pas suffisamment entraînée, mais il y a aussi, par exemple, sur le développé couché, sur les gros muscles entraînés, il y a une problématique aussi de contrôle angulaire. Il y a l'amplitude qui pose problème. Et il y a un contrôle angulaire des gros muscles sur cette fin d'amplitude, sur cette fin de course, qui peut mener sur des gestes de grande amplitude, sur, comme tu disais, il y a l'ouverture des coudes, certes, mais il y a l'amplitude du geste, les coudes qui descendent beaucoup trop bas. On va avoir un étirement du grand pectoral qui va être très important, beaucoup d'étirement sur la capsule articulaire de l'épaule, beaucoup de stress mécanique sur les muscles de la coiffe de rotateur, et grand stress mécanique, grand besoin de stabilité. Et il faut que le système musculaire soit performant et aussi soit habitué à un tel effort. D'autant plus s'il y a un phénomène de vitesse qui est surajouté sur le geste sportif. Ça, je pense que c'est quand même des choses à voir. Tu parlais aussi de tendinopathie égale inflammation. Maintenant, on a eu la chance de recevoir Valentin Copin dans l'épisode, qui est kiné spécialisé dans les tendinopathies. Et en fait, les tendinopathies, enfin les tendinites ont été renommées en tendinopathie, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas systématiquement de marqueurs inflammatoires dans le cadre.
Dégénérescence.
Et oui. Donc, alors, dégénérescence, oui. Ça, c'était. Du coup, c'est pour ça qu'on les a renommés à un moment donné tendinose. On s'est rendu compte que ce n'est pas forcément un problème de remaniement des fibres. On peut avoir un problème soit, effectivement, de dégradation, de synthétisation, un déséquilibre sur les capacités mécaniques. Donc, surcharge, un. Problème de vascularisation, deux. Ou problème inflammatoire, 3, ou les 3 réunis, ou que
c'est
les deux triades premiers.
En fait.
Eh oui, d'où le fait que maintenant tendinite, bon, on pinaille un petit peu, mais le choix des mots est important aussi, de se dire effectivement, forcément un terrain inflammatoire sous-jacent va pas être propice à quelque chose de sain, quelqu'un qui a un terrain inflammatoire chronique, et on discutera peut-être des modalités par la suite de gestion de phénomènes inflammatoires, peut-être aussi gestion de la vascularisation, et peut-être aussi gestion de la charge, puisque ça va être la triade sur ces problématiques tendineuses.
Je voulais que deux kinéostéopathes expliquent pourquoi on est passé de tendinite à tendinopathie, donc tu m'as devancé, merci. Quand tu parles de vascularisation, qu'est-ce que tu veux dire ?
Le tendon a très peu de cellules comparativement à un muscle. Le muscle, c'est rouge, le tendon, c'est plutôt blanc, même si de séparer les entités, ça va bien dans les livres d'anatomie, mais... Toi-même, quand on regarde comment c'est fait réellement, quand tu regardes des imageries, on a reçu Jean-Claude Gimberto.
Gimberto,
qui a visualisé in vivo le tissu. Donc, il a regardé comment se comportait le fascia, exactement, les aponevroses. Et en fait, on voit tout ce tissu blanc qui a tendance à être avasculaire, en fait, très peu vascularisé.
Comme le cartilage.
Et donc ça pose un problème de cicatrisation et de capacité d'adaptation du tissu tendineux. Donc, le ténocyte est très peu vascularisé, a une capacité d'adaptation qui est en retard, finalement, au muscle. D'où le fait qu'on abordera peut-être la problématique des stéroïdes et de la croissance musculaire qui devance en fait l'adaptation tendineuse. Et donc il y a cette problématique de vascularisation du tendon. En fait, il n'y a pas de vascularisation intrinsèque dans le tendon, ou très très peu. La vascularisation, elle est périphérique, mis à part quand le tendon est en souffrance. Et à ce moment-là, les vaisseaux sanguins et des micro-innervations vont perforer le tendon, le rendant plus sensible d'ailleurs. C'est pour ça que ces tendinopathies ont tendance à être sensibles, c'est qu'il y a des vaisseaux sanguins qui rentrent dans le tendon pour apporter les nutriments et pour aider à la cicatrisation, mais on a aussi des petits filaments de nerfs qui viennent et qui vont sensibiliser aussi ce tendon.
Création de nouveaux nerfs.
Et donc, sur ces problèmes de vascularisation, tu as aussi des pathologies qui peuvent créer ces problématiques de vascularisation. Et donc, par exemple, le tabac peut être une des grosses problématiques d'effets négatifs sur la vascularisation, quelles que soient les structures finalement. Mais le tendon va en pâtir.
Et globalement, le tendon, c'est juste de la transmission de force. Ça va être un peu comme le cartilage, en fait. C'est pas la même transmission. Il y en a une plus en pression, l'autre plus en tension. Et ce qu'il disait, c'est quand il y avait cette vascularisation, il y a une porosité du tendon qui perd sa fonction de transmission. Et donc, c'est toute cette remise en charge des contractions isométriques, excentriques et puis pliométriques qui vont te permettre en fait de recharger un tendon qui a été vascularisé, qui a été sensibilisé par les nouveaux nerfs qui sont mis à l'intérieur du tendon. Donc, c'est toute une progression de la charge.
C'est pour ça que quand on a une tendinopathie, c'est justement cette création de nouveaux nerfs dans ce tendon qui fait qu'on ressent plus la douleur.
Oui. Ça le sensibilise et c'est justement ça une des problématiques. On voit des praticiens qui viennent faire des massages transversaux profonds sur le tendon et en fait, c'est une aberration. Tu as un système qui est irrité, qui est sensibilisé. Tu ne vas rien faire en faisant des massages transversaux profonds dessus. Mis à part le sensibiliser encore plus, le rendre encore plus douloureux, ce tendon, il faut le laisser tranquille. Et on verra peut-être des modalités manuelles par la suite dont on a pu discuter.
Comme il y a une triade, tu vois, comme il y a une triade de mise en tension, vascularisation et statut inflammatoire, il y a des gens qui peuvent bien répondre à ce massage profond où on a parlé des ondes de choc en off, mais il faut bien savoir dans quelle proportion la triade se met en place pour créer des douleurs de tendinopathie.
Oui, parce que du coup, si je comprends bien, le fait des massages profonds ou d'autres techniques vont relancer cette vascularisation et processus anti-inflammatoire naturel du corps.
Oui, je pense
que ça marche.
Chez certaines, ça marche, mais il y a aussi le fait que ça vient travailler sur les récepteurs, les nocicepteurs. Et tu vois, c'est comme si on venait casser un peu, saturer ces récepteurs à la douleur, qui allait faire qu'après, il allait avoir moins de signal douloureux. Tu comprends ? C'est pas vraiment sur la structure du tendon, mais plutôt sur le signal douloureux des nocicepteurs.
Ouais, les MTP, quand même, les MTP, c'est pas 2020.
Ouais. Après, tu sais, c'est la mode, ça va, ça revient, on sait jamais. Hein.
Bah, c'est pas une question de mode, tu vois. C'est une question aussi de se dire qu'est-ce qui fonctionne, tu vois. Qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui... On verra par exemple après sur la complémentation alimentaire, sur l'hygiène de vie, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il ne faut pas se tromper de priorité. Ça peut, mettons, c'est un outil qui marche sur 5% des gens. Ok, mais attends, peut-être fais déjà la base. C'est comme si je disais ok, est-ce que c'est bien si je me supplémente en collagène? Il va me dire, attends, tu manges quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'entraînes? Non, je ne m'entraîne pas. Attends, mais tu fais commence par la base. Il faut voir ton volume d'entraînement. Il faut voir les facteurs de récupération. Tellement de choses à voir avant de vouloir chercher les trucs.
Il y a des tendinopathies, tu vois, par exemple, toi, H, je pense que tu as eu mal à l'épaule à un moment, si j'ai cru comprendre. Mais il y a aussi Jocelyne. Il y a aussi Jocelyne qui est sédentaire, qui peut avoir la tendinopathie, le même type de douleur. Exactement, que toi. Ouais. Et donc ça, c'est super important de savoir qui on a en face.
Mais c'est pas les mêmes, puisque le H, est-ce que c'est pas plutôt de la surcharge? Et Jocelyne, c'est de la sous-charge. Et les deux vont poser problème sur l'adaptation du tendon et la qualité des fibres de collagène.
Toi qui parles de vascularisation, pouvez-vous expliquer pourquoi du coup le repos et l'immobilisation est contre-productive, même quand on a vraiment des problèmes de douleurs aiguës, etc. Bon, peut-être pas sur les premiers jours. Et en quoi une personne comme Josiane t'a dit, qui fait rien, peut avoir une tendinite de l'épaule, voire une rupture partielle.
C'est peut-être le H, hein. C'est peut-être le H qui en fait pas assez et Jocelyne qui en fait trop aussi, tu vois.
Je m'entraîne moins qu'avant, mais bon.
Quand même.
Donc le mouvement, c'est la vie, le H. Nous, ce qu'on défend, kinésithérapie, c'est la thérapie par le mouvement. La mise en mouvement progressive, T en fonction des douleurs, je pense que c'est essentiel comme message à donner. On se réfère en fait souvent à la douleur pour savoir la progression de la charge qu'on peut appliquer. On prend un garde-fou de douleur 3-4 sur 10 pendant l'activité, que ce soit en séance avec nous, en entraînement avec toi ou dans sa vie quotidienne, le fait de porter ses courses ou de prendre un paquet de biscuits dans son placard. Est-ce que ma douleur dépasse 3-4 sur 10 dans l'activité? Le deuxième paramètre, c'est la douleur après l'activité, à une heure. Est-ce qu'il y a une activation de la douleur? Est-ce que j'ai mal, oui ou non, après l'activité? Et le troisième paramètre, c'est le lendemain matin. Est-ce que j'ai plus de douleur le lendemain matin comparé à la veille au matin? Moi, enfin, c'est comme ça qu'on avance, parce qu'on va progresser sur la charge au fur et à mesure sur le tendon, la charge qu'on va pouvoir appliquer, donc le stress mécanique. Et on a ce garde-fou de douleur pendant, une heure après, le lendemain. Il y a les trois facteurs. C'est que le stress appliqué dépasse la capacité d'adaptation de votre tendon à récupérer. Si on a deux facteurs, on a la limite. Si on a que un ou zéro facteur, ça permet de se dire que l'activité est bénéfique et crée l'adaptation sur votre tendon.
Quand vous avez un client qui vient vous voir, vous diagnostiquer, même sans imagerie, directement une tendinopathie basique, hein, coude, épaule, c'est quoi votre protocole basique de guérison, grosso modo?
C'est le stress appliqué. Au début, on peut avoir une tendinopathie. Je pense tout mouvement actif peut faire mal. Donc, le premier levier qu'on peut avoir, c'est de faire juste de la mobilisation passive. Tu vois, d'enlever ce biais d'activation musculaire qui va faire mal. Juste redonner du mouvement par des mobilisations. Puis après, ça va être d'être progressif sur la contraction qu'on va demander. Ce qu'on a vu avec Valentin Copin, c'est vraiment, on te le redit, on redit à tous les auditeurs d'écouter cet épisode, c'était vraiment vraiment à 1000%. Donc c'est d'informer le corps par la contraction musculaire
isométrique.
La première contraction, c'est l'isométrique, donc c'est des contractions statiques dans l'ensemble de l'amplitude. Donc quand on est en aigu, on va peut-être avoir que 30-50% de l'amplitude articulaire, on va pouvoir mettre des contractions, mais c'est déjà une remise au dialogue avec son corps. Puis après, on va essayer de faire ces contractions statiques dans l'ensemble de l'amplitude. Et une fois qu'on aura l'ensemble des contractions statiques dans cette amplitude articulaire complète, on va passer sur des contractions qui sont dynamiques. Donc l'excentrique, qui va être une contraction de freinage, qui va permettre de renforcer les tissus tendineux ou musculaires. Et puis après, on se dirigera vers la fonction, plus vers des mouvements dynamiques, de pliométrie et de gestes sportifs.
Il y a quand même deux choses aussi à apporter à ton discours, Vincent. Le H, il parle de tendinopathie qui a été diagnostiquée. Mais est-ce que c'est vraiment une tendinopathie? Parce que combien de fois j'ai vu des patients venir avec la tendinite de l'épaule et du coude et en fait, personne n'a regardé les cervicales et on se rend compte que c'est plutôt une névralgie cervico-brachiale. Donc, tu peux tester et travailler tant que tu veux ton épaule en isométrique, je sais pas quoi. Mais en fait, tu te retrouves avec tes cervicales qui sont la clé du problème, que personne n'est venu évaluer. Mais quelle erreur! Donc, dès qu'il y a des douleurs à distance quand même, il faut penser à regarder ce qui se passe au niveau du tronc, au niveau de la racine du membre, et évaluer. Donc certes, les mobilités au niveau de ton épaule, voir qu'est-ce qui se passe, mais aussi au niveau de l'omoplate. Si on parle de l'épaule, par exemple, on regarde la racine du membre, on regarde au niveau de l'acromioclaviculaire comment ça se passe, au niveau de l'omoplate comment ça se passe, au niveau du rachis cervical évidemment, évidemment, et au niveau du rachis dorsal aussi, les mobilités. Et la charnière cervico-dorsale, surtout à ne pas oublier, la première côte aussi à regarder. Il y a plein de débats dans le monde de la kiné et de l'ostéo là-dessus, sur ces différentes évaluations, mais quand même, l'évaluation du rachis cervical, il n'y a plus de débat là-dessus. Une fois qu'on est certain...
La globalisation de l'ostéopathe qui s'exprime là.
Oui, mais non, mais maintenant, ça paraît logique, même dans le monde de la kiné, c'est plus juste de l'ostéo. Hein. Une fois qu'on est sûr qu'il n'y a pas de facteurs cervicaux qui rentrent en jeu, parce qu'on sait quand même que la moitié des douleurs d'épaule ont une origine cervicale, la moitié en termes de fréquence, hein, d'accord. Donc il y a quand même souvent une composante cervicale aux douleurs d'épaule. Dans le coude, je crois que c'est 30%, et au niveau de la main et du poignet, c'est 20%. Tu vois, donc plus on s'éloigne quand même, plus ça a tendance à être à moins venir du rachis cervical. Mais bon, quand on voit un trajet qui descend des cervicales jusqu'à la main, bon, il faut...
Et justement, cette névralgie cervicale, elle va toucher plus un sportif, je dirais que non, ou quelqu'un de sédentaire.
Franchement, là, j'ai pas les
stats. Il n'y a pas de vérité.
Je sais pas, le H.
Et encore, on dit 50%, nous en voulait pas si c'est 47 ou 62.
Non, c'est 50. Hein. C'est 50, venez me chercher.
C'est 50-50, il n'y a pas de... Okay.
Non, non, non.
Ce qui est important, c'est, on a eu aussi Fred Cossé, si tu veux, le H, qui est un super kiné, qui nous a un peu parlé de sa conception du corps humain et comment il va, son point de vue au niveau rééducatif. Et donc, il va vraiment avoir un aspect local où il va venir créer de l'adaptation locale, puis après régionale et puis après globale avec des chaînes cinétiques qui prennent le corps entier. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Faut zoomer pour après prendre de la distance.
Oui, parce qu'on parle de tendinopathie au niveau de l'épaule, mais qu'est-ce qu'il en est des fixateurs de l'omoplate? Qu'est-ce qu'il en est du gainage scapulaire et du contrôle scapulaire? Toi-même, le H, tu sais très bien que quelqu'un qui veut progresser en développé couché, certes, c'est la force des pecs, la force des deltoïdes antérieurs, la force du triceps, mais d'avoir une fixation de la chaîne scapulaire pour pouvoir pousser, et il faut que tu aies une chaîne poste qui soit béton. Et de toute façon, c'est, je pense, peut-être le maillon faible. C'est pour refaire un retour sur ce que tu disais en première partie d'épisode. C'est peut-être le maillon faible à un moment donné de ceux qui veulent progresser dans cette problématique-là. Et juste un dernier truc, Vincent, dans le protocole de remise en charge, tu parlais de l'isométrique, tu parlais de l'excentrique et après tu parlais de pliométrie. Mais en fait, il y en a un qui devrait être au milieu, c'est le heavy slow resistance. C'est de mettre lourd, lent, lourd à adapter, mais de faire ce travail lourd, lent, ça a montré des réels bénéfices pour venir être pas trop agressif, parce que forcément, dès qu'on fait de l'excentrique, on vient quand même travailler l'étirement des fibres, c'est quand même assez... traumatique, mais on a besoin du traumatisme. Hein. Sinon, on ne ferait pas de la muscu, on n'irait pas courir et s'essouffler. Hein. Le corps, pour s'adapter, il faut le choquer un peu. Et donc, du coup, sur ce protocole HSR, Heavy Slow Resistance, ça semble être intéressant de l'intercaler entre cette phase isométrique et après l'excentrique.
On joue avec la stimulation, que ce soit sur l'ensemble du profil force-vitesse, en fait. Hein. Après, c'est de se diriger vers l'objectif. Et c'est ça l'essentiel, quel est l'objectif, quel est le constat de base, quels sont les objectifs de la personne, être à l'écoute. Et je remets une couche sur l'intérêt de nos douleurs, qui sont là aussi pour nous protéger, pour pas se faire plus mal que le constat où on est. C'est vraiment informationnel, il faut mettre du changement, évoluer sur la zone, parce qu'il y a quelque chose à mettre en place. Et donc cette douleur, elle devient... pas un problème ou une contrainte, mais plutôt un guide sur votre récupération. Et c'est au fur et à mesure que vous allez pouvoir remettre progressivement de la charge, que vous allez pouvoir vous référer à vos douleurs pour mieux vous connaître, évoluer et revenir sur quelque chose de normal, si on peut utiliser ce mot.
D'où l'intérêt de faire des efforts de faible intensité, de pas immobiliser, pour refaire le lien avec ce que tu disais, pas immobiliser pour faire même des efforts de faible intensité, pour revasculariser, capillariser la zone. Et aussi pour informer que, ben, en fait, tu peux faire des choses avec pas trop de douleur, même si c'est peu, même si c'est pas beaucoup, c'est déjà la porte d'entrée. Parce qu'en fait, l'immobilisation, c'est confortable. Hein. C'est sûr que les patients, ils ont beaucoup moins mal. Mais quelle est l'adaptation du tissu suite à cette immobilisation? Quelle est la qualité tissulaire qu'on va obtenir après 3 semaines d'immobilisation? Bon, c'est sûr, quand il y a une indication médicale à l'immobilisation, OK. Et quand on peut passer outre...
Oui, l'immobilisation peut avoir, ça peut être un outil, mais c'est comme si je marche dans la rue, je prends un bus, ben après je vais marcher avec des béquilles, mais je compte pas marcher avec des béquilles toute ma vie. Donc l'immobilisation peut avoir un intérêt en aigu. Encore une fois, de quoi on parle, le H, tu vois, on essaie de te donner des idées, mais c'est tellement différent, c'est tellement personnel que voilà, il faut qu'on ait un peu de mesure aussi dans ce qu'on raconte.
Est-ce que vous utilisez le BFR? Justement, tout ce qui est vascularisation, on crée des réponses.
Non.
Inflammatoires.
Moi, non, mais je pense que c'est un outil intéressant pour créer un stress métabolique, tu vois, sur la zone. Et du coup, ça peut te permettre de réduire les charges et de créer plus un stress métabolique que mécanique. Je pense hyper intéressant.
En aigu, ouais. En post-op, tu vois, quelqu'un qui se fait les croisés, qui n'a pas trop de possibilité d'avoir de l'amplitude pour créer de la masse musculaire, ça peut être intéressant.
Mais est-ce que on n'est pas encore sur est-ce que ça reste la base, tu vois? Est-ce que ça reste 80% du taf qui doit être fait? Est-ce que c'est pas la cerise sur le gâteau, tu vois? Même si la cerise peut-être elle est belle, tu vois?
Oui, bien sûr. Bah, déjà vous, votre métier il est compliqué parce que vous avez, je pense, 20-30 minutes à accorder à un patient.
Ça dépend. Nous un peu plus tous les deux quand même.
Un peu plus, ok.
On veut bien travailler, tu sais, on a 1000% le H.
Ouais, pour incorporer ce genre de technique, c'est un patient que vous allez voir plusieurs fois par semaine sur plusieurs semaines. Comme tu as dit, c'est la cerise sur le gâteau. Un truc que tu vas faire de base direct à la première séance.
Oui, oui. Je pense que ça peut être intéressant de mettre en place. Après, moi, pour être transparent, moi maintenant, je fais que de l'ostéo. Donc, je fais plus de rééducation fonctionnelle depuis 2 ans, tu vois. Mais je travaille avec des kinés et on se met d'accord sur des pistes de rééducation. Des fois, je leur donne des idées aussi, parce que je cherche, je réfléchis et je suis les patients, tu vois, semble qu'on est en tendinopathie. Et justement, c'est pour ça que je parlais du rachis cervical, tu vois, parce que c'est eux m'envoient des patients quand ils ont un doute sur le fait que ça puisse ne pas être, tu vois, des problématiques locales, mais qu'il puisse y avoir une intrication à distance. Et c'est là où moi, je viens aider au triage, tu vois, et de dire, bah, ce patient-là, il n'y a rien au niveau cervical, c'est que une tendinopathie, on s'entend, tu vois. Mais souvent, il y a une autre problématique, c'est que les tendinopathies, par exemple au niveau de l'épaule, il y a d'autres structures qui peuvent être irritées. Il peut y avoir une bursite qui peut être irritée aussi, une bourse qui peut être irritée. Et donc, il peut y avoir aussi une sensibilisation de ce petit coussinet au niveau de l'épaule. Donc, ça peut surajouter aussi de la douleur. Et puis aussi, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, et c'est pour ça, faites-vous accompagner. Ceux qui restent dans le flou et qui se disent, bon, j'ai ma tendinite au niveau de l'épaule. Et en fait, il traîne un problème cervical pendant 5 mois en testant de faire de l'isométrique et faire tout ce qu'on se dit. Mais faites-vous évaluer, allez voir un pro. C'est comme si tu veux progresser en muscu aussi. Et si tu veux faire les choses sérieusement, il faut aller voir un coach.
Seulement 10% d'entre vous sont abonnés sur nos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre les 5 étoiles. Ça nous donne de la force pour la suite. Retour au podcast.
Et tu vois, Fred Cossé, il nous a parlé aussi de prendre l'individu dans son ensemble et donc le poids du mode de vie, t'en parles souvent le H, et aussi l'importance de cette inflammation de bas grade qui peut nourrir en fait tout le vieillissement cellulaire et créer aussi des douleurs comme des tendinopathies ou autres. C'est super important d'avoir un impact, poser des questions. Mais tu vois, ça fait 28 minutes qu'on parle de tendinopathie. Ça veut dire que la séance de kiné ou d'ostéo, elle est en train de se terminer. Donc ça, tu vois, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de postes possibles.
Ça va, en ostéo, je passe pas 28 minutes avec mes patients. J'ai un peu plus de temps quand même, Vincent.
Oui, mais pour poser des questions, tu vois.
Oui.
En vrai, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de causes et c'est peut-être l'ensemble des paramètres qui peuvent nous permettre de trouver la solution.
Mais c'est à nous d'avoir les connaissances et d'orienter le patient aussi sur... on peut l'expliquer aussi, le résumé, mais peut-être pas tout le schéma de réflexion. Parce que c'est comme quand
le coach, ça va mieux l'épaule ou pas?
Ouais, ça va. Je peux plus développer militaire lourd. À l'ancien épisode, ce que je vous avais dit.
Qu'est-ce qui se passe?
J'avais eu mon accident. Ouais. Bah, j'avais double fracture de l'humérus. J'ai des vis dans le bras. Arrachement, rupture de l'épaule. Rupture de l'autre aussi. J'ai tout enchaîné. Ça va, je fais attention. Par contre, oui, je peux plus faire de sport de combat. Je fais un paddle, j'ai mal, mais tout va bien. Ça m'a permis de me caler encore plus sur tout ce qui est biomécanique et kiné, ostéo. Et après mon accident, après notre podcast, je crois, je me suis inscrit dans une école d'ostéo.
Mais non.
Ah oui.
Si. Première année, je suis allé en cours et tout. Les gens, ils me voyaient au fond de la classe. Mais t'es là, tu vas faire une vidéo? Non, non, je suis là comme toi et tout. J'ai lâché parce que je me retrouvais à répondre à mes clients pendant le cours, même si le cours, je le suivais super bien. J'ai kiffé, c'était, mais je continue à apprendre moi-même, je continue encore à apprendre.
Ah, c'est magnifique.
C'est... Et c'est beau.
Tu as été éveillé au toucher, ouais. Au pouvoir de la main.
J'ai toujours dit, s'il y a un métier que je pourrais faire ou que j'aurais pu faire dans une autre vie, c'est kiné-ostéo parce que j'ai une fibre. Genre, j'arrive à sentir des choses qui ne vont pas quand je touche quelqu'un. Combien d'amis ou de parents d'amis j'ai réglé avec des manips sur tendons de l'épaule ou vraiment fessier, etc. Je ne sais pas pourquoi.
Ah, c'est pas fini, tu peux toujours reprendre.
Je deviens vieux. Et oui, mais pour en revenir sur notre sujet, pourquoi est-ce qu'on parle de tendinopathie autant? Pourquoi est-ce qu'elles surviennent autant? Elles surviennent autant. Là, on va rester sur le spectre du go-muscu. Vraiment, ceux qui vont en salle et tout.
Ouais.
Les gens qui vont en salle vont accorder moins de temps, moins d'importance sur tout ce qui est renforcement articulaire, déjà, ou muscle stabilisateur, de un. Plus donner de l'importance sur tout ce qui est esthétique, je peux comprendre. Mode de vie, hygiène de vie pas top, alimentation inflammatoire qui va favoriser, sommeil pas top qui va favoriser, ou justement empêcher la bonne guérison, réparation de tissus musculaires et articulaires, etc. C'est un ensemble. Vous vous retrouvez du coup avec beaucoup de go-muscu, de Aerox maintenant, qui, s'ils avaient juste implémenté ces 5 minutes de... Je ne parle même pas de renforcement articulaire, je vais juste te parler d'échauffement. L'échauffement fait circuler liquide synovial, tu vois, et te prépare les tendons, prépare les ligaments, etc. Juste ça, je pense qu'il y aurait déjà beaucoup moins de pathologies. Donc, c'est juste, pour moi, un état d'esprit. Et je le répète dans toutes les vidéos et à mes clients, si tu veux perdurer dans le temps et faire des gains, sache qu'une tendinite va te mettre sur la touche 6 mois. Compare ça versus travailler tes pecs 15 minutes de moins par séance et incorporer ces 15 minutes sur du renfort articulaire et échauffement. Le gap entre ta blessure de 6 mois et aucune blessure, mais travailler un peu moins les pecs, n'a rien à voir.
C'est une perte de temps. De temps, un athlète, quel qu'il soit, un athlète blessé, c'est un athlète qui travaille pas, qui se désadapte. C'est pour ça qu'on a commencé par le mouvement, mais sans mouvement, sans charge, le corps est feignant, il se désadapte. Et donc, c'est du temps de perdu, c'est une expérience difficile à travers la douleur. Donc, il y a rien de bon à rester chroniquement dans la douleur.
Bien sûr. Une fois que tu as un signal de douleur pendant l'entraînement, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il faut tout de suite arrêter le mouvement.
Ou l'adapter, tu vois. Il faut communiquer. Il ne faut pas avoir peur de cette douleur. Il faut dialoguer.
Le H, il parle d'un gars qui fait un 5x5 développé couché comme un bourrin. Tu parles de ça, le H.
Bah, tu sais quoi, on prend ton exemple de développé couché. Tu fais ton développé couché. Donc, ton outil, c'est travailler les pecs. 5x5, tu as mal. Même juste avant d'arriver à tes top 7, juste à tes pré-échauffements, tu as mal. Donc, moi, j'ai dit... arrêter le mouvement. Vincent, il a dit adapter. Je suis d'accord avec Vincent. La prise en pronation fait que, comme j'ai dit au début de la vidéo, la tête de l'humérus va se frotter plus. L'espace sous-acromial est réduit, donc ça frotte plus. Tu passes juste en prise marteau sur ce même mouvement, donc sur une machine ou en haltère, 90% des gens ne ressentent plus aucune douleur. Donc, tu n'as pas mis de côté ce mouvement, tu l'as adapté comme a dit Vincent. Et tu as toujours les mêmes gains.
Je t'ai entendu dire ça. Donc pour moi, ce n'est pas tout à fait exact parce que quand je me mets en pronation d'avant-bras, je ne vais pas obligatoirement passer en rotation interne d'épaule. C'est aussi sur ce travail technique d'activation de l'omoplate qui peut te permettre de garder un espace articulaire qui soit OK, même si je suis en position de pronation.
Ouais, toi, tu es kiné, tu sais très bien comment t'entraîner, c'est normal.
Mais toi aussi, le H, t'es ostéo, là. C'est bon.
Jusqu'au doigt de pied, tu sais comment te placer sur un bench. Mais quelqu'un ouais. De lambda, parce que c'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à apprendre, le truc des omoplates ou l'épaule en arrière, etc. Oui. Quand tu lui dis ça, c'est plus facile.
C'est vrai.
Et encore, le placement sur un bench, c'est plus compliqué que ce qu'on ne pense. Hein.
C'est hyper dur. Je ne sais pas faire de bench, moi, personnellement.
C'est quoi les intentions de, d'une position, d'une bonne position sur le bench? Tu dirais quoi, toi, à tes clients?
Placement, le l'ouverture des coudes, creuser le dos, comment tu prends tes appuis au sol, tu vois, gaine le bassin, les fessiers, rétraction des omoplates, la barre où tu la mets, tu vois. Est-ce que tu l'amènes au sternum? Est-ce que tu l'amènes en prise devant tes yeux ou en guillotine? Tout un ensemble. Ce qui compte, c'est que tu commences avec une barre à vide. Tu dois ressentir aucune gêne avec une barre à vide. Et ensuite, progressivement, tu montes. Et le tempo. Le tempo. Excentrique, comme vous l'avez dit, l'excentrique, c'est valable en rééducation, en réathlétisation, c'est valable pour l'hypertrophie. Contrôler un minimum l'excentrique.
C'est un des meilleurs moteurs de l'hypertrophie, mais grand résultat, grand risque aussi sur l'excentrique, puisque de venir étirer de la fibre et de venir chercher la fin d'amplitude, c'est un des moteurs de l'hypertrophie, mais c'est un des moteurs de la blessure aussi. Donc c'est un équilibre fin quand même à gérer.
Ouais, sur l'amplitude, ce qui va provoquer sur le mouvement complet d'un exercice, qui va provoquer le plus de stress, qui va provoquer l'hypertrophie derrière, c'est la partie où le muscle est étiré. Alors c'est très important d'adapter le mouvement en fonction de son anatomie. Heureusement, il n'y a pas 1000 différences entre deux individus, mais je prends juste l'exemple de biceps court, biceps long. Tu prends quelqu'un qui a un biceps court, qui va faire un curl complet, donc bras complètement étiré.
Au pupitre, là.
Beaucoup plus de chances de se péter le tendon du biceps. Je l'ai vu plusieurs fois. Pareil pour le tendon pectoral, c'est une des plus grosses blessures en musculation développé couché. Ça vient, et là on fait une petite transition sur les stéroïdes, etc. Ça vient pourquoi? Ça vient parce que, vous le savez tous, le développé couché, c'est le mouvement roi à la salle. C'est un mouvement où tu te sens puissant, tu pousses lourd, c'est un mouvement complet, c'est un mouvement sympa. Donc c'est un mouvement où tu vas mettre plus d'énergie, plus de conviction, plus de temps. Si quelqu'un prend des stéroïdes, il va monter en force très très rapidement dessus. Et comme vous l'avez dit tous les deux, le tendon s'adapte 3 à 6 fois moins vite que le muscle. Donc il va passer de 100 au bench à 140 en quelques semaines. Sauf que son tendon, pour gérer ça, il aurait besoin potentiellement de 6-7 mois. Et là, ce qui se passe, c'est que voilà, sur la phase d'étirement, il étire un peu trop le pec, sans peut-être s'être échauffé ou avoir renforcé ses épaules, problème de déséquilibre musculaire, déséquilibre de force entre muscles et tendons, tendons du pec, je l'ai vu, et c'est impressionnant.
Pourquoi je prendrais des stéroïdes? Je ne m'y connais pas trop, c'est quoi l'intérêt?
L'intérêt des stéroïdes, sachant que stéroïde veut tout dire et veut rien dire, il y a plusieurs familles, mais stéroïde, c'est le mot utilisé pour dire construction musculaire plus rapide au-dessus des doses supraphysiologiques humaines, ce que ton corps ne peut pas atteindre naturellement. Tu essaies de dépasser ta limite. Tu as plusieurs molécules, chaque molécule a des effets différents sur les muscles, mais aussi sur les articulations. On va en venir plus tard. Une personne qui prend les stéroïdes, c'est simplement une personne qui veut dépasser sa limite naturelle. Alors ça peut être pour une histoire de performance. Il y a beaucoup d'athlètes, de sportifs, des boxeurs, des sprinteurs, des cyclistes, etc., qui vont prendre des stéroïdes qui vont favoriser l'apport de globules rouges, la fabrication de globules rouges, meilleure oxygénation, meilleure endurance musculaire. T'en as qui vont prendre pour l'agressivité, être hyper agressif, vraiment comme un pitbull, ça a des effets sur le muscle, bien sûr, et t'en as qui vont prendre juste pour se sentir mieux, parce que si tu as une testo normale, tu sens pas que tu vas pas bien, parce que c'est ok, mais quand tu as une testo basse, c'est là que tu sens que t'es fatigué, la libido elle est pas top, ta prise de muscle elle est quasi impossible, ta perte de gras est ralentie, etc., etc. Donc en fonction de l'objectif de chacun, il prend tel ou tel produit.
C'est du dopage du coup?
C'est du dopage, ouais. Au même titre que prendre X dose de Ventoline avant un match de foot de Ligue 1 et du dopage.
C'est quoi les risques à cette prise de stéroïdes? Parce qu'il y a des bénéfices, mais Il y a aussi sûrement des risques aussi.
Bien sûr, après tout dépend des molécules, mais la molécule reine, enfin le roi, c'est la testostérone, c'est la base. Effet secondaire, c'est diminution directe du système cardiovasculaire de 20 à 30%, ce qui est énorme. Le mauvais cholestérol monte, le bon cholestérol descend. Déjà, juste ça, tu te mets en danger sur ton cœur.
C'est pas 1000%, les gars, c'est pas 1000% ça.
La plupart des bodybuilders qui...
Et pourquoi on en parle, c'est que on va en avoir de plus en plus souvent, que ce soit au cabinet ou toi en client. Donc, c'est aussi important de discuter de ça pour donner de la connaissance autour de ça. Mais bien sûr, 1000% se place. Voilà, nous on veut une armure, mais on veut une armure, tu vois.
Un des objectifs de ce podcast, quand je vous ai dit, c'est moi, je trouve que les kinés et ostéos doivent se mettre à jour parce que tu sais pas sur quel patient tu peux tomber demain et vous allez en avoir de plus en plus. Donc, un patient qui a une pathologie en étant naturel versus un patient qui a une pathologie la même en n'étant pas naturel, tu dois, si tu sais quel stéroïde il prend ou ne prend pas, les effets secondaires et tout, tu sauras d'où ça vient pour le traiter potentiellement. Mais la base, oui, la base, c'est la testostérone. Au-delà des risques d'infertilité, production de spermatozoïdes diminuée, voire stoppée, etc., ouais, ça joue sur le cœur. Ça, c'est les effets néfastes. Ça joue sur les cheveux aussi, bien sûr. Va se convertir en DHT, ça joue sur les cheveux, mais ça, on peut aller en Turquie, il n'y a pas de problème. Et le problème principal, c'est qu'une partie se convertit en œstrogène. Alors, œstrogène, qui est l'hormone féminine, tu en as trois, mais celle qui nous intéresse, ça va être l'estradiol E2. C'est celle qui se fixe sur les glandes mammaires, qui va provoquer potentiellement une gynécomastie. Comme c'est une hormone féminine, c'est mal vu, on est d'accord. On en a besoin, c'est indispensable pour le système articulaire et pour la production d'hormones de croissance, enfin d'IGF-1, qui est indirectement produit par l'hormone de croissance. Sans œstrogène, ton hormone de croissance ne peut pas dire au foie, le foie n'arrive pas à sécréter de l'IGF-1. Et sans œstrogène, tu as ce qu'on appelle les articulations asséchées. Pourquoi ? Parce que ça réduit la production de liquide synovial. Et ça, ça change tout. Donc, les utilisateurs de stéroïdes, peur, par crainte de développer une gynécomastie, ou simplement parce qu'en fait, les protocoles que tu vois sur les forums ou que tu entends dans les salles, c'est des trucs qui datent de 10 ans, disent X mg de testostérone, X mg de anti-œstrogène. Anti-œstrogène qui est un médicament. La liste des effets secondaires de ce médicament, il y en a plusieurs, est plus longue que la liste des effets secondaires de la testostérone. La personne va prendre un anti-œstrogène sans savoir si vraiment son corps va convertir la testo en œstrogène. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, elle va se tirer un chargeur dans le pied, alors que potentiellement, elle aurait pu juste avoir un niveau d'œstrogène un poil surélevé, mais pas dangereux, pas développé de gynécomastie. Donc, c'est une prévention qui va être plus dangereuse que si elle n'avait pas été faite. Et la personne va se retrouver très très rapidement avec des articulations asséchées, et c'est là que ça pète. Tu as d'autres stéroïdes qui sont très connus, hein, Winstrol et Trenbolone. Pourquoi ils sont connus ? Parce que ça donne un aspect dur, un aspect sec, un aspect vasculaire, agressif, ça assèche, vraiment ça tape dans le gras alors que tu fais rien. Pas magique, mais ça tape dans le gras. Pareil, articulation asséchée. Et vraiment, le Winstrol, qui est un cachet en plus, où tu prends une injection, au bout de 2-3 semaines, juste t'asseoir sur la cuvette, t'as l'impression que la pression qu'il y a sur la rotule va faire imploser ton genou, tellement c'est sec. Très important de savoir ces quelques stéroïdes et de comprendre les effets secondaires, et vous allez mieux gérer vos patients.
Mais c'est vraiment intéressant de comprendre. Clairement, c'est pas à 1000%. Manipuler son système hormonal, je t'ai entendu en parler, c'est vraiment un gros facteur sur notre performance, sur notre vieillissement. Et qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à tout ce système endocrinien, hormonal qui dirige notre corps?
Comprendre les fondamentaux. Comprendre comment le corps, l'axe hypothalamus hypophyse, va faire en sorte que ton corps sécrète de l'hormone de croissance. La testostérone, comprendre les différentes familles des stéroïdes, comprendre pourquoi tel stéroïde a un effet négatif sur la synthèse de collagène. Le Winstrol, par exemple, Trenbolone, diminue la synthèse de collagène d'environ 30%, ce qui est énorme. Sachant qu'on sait très bien que ligaments, tendons, est constitué de collagène, type 1, type 3. Donc voilà, c'est énorme.
Tu vois, ça augmente encore plus. Je te coupe, mais ça augmente encore plus. Oui. Tu as un écart de récupération tissulaire qui s'écarte encore plus, quoi.
C'est ça, parce qu'en plus, la trenbolone, j'ai dit, c'est vraiment le stéroïde le plus puissant qui te rend agressif, sec et tout, fait aussi augmenter ta force encore plus que la testostérone. Donc, tu vas progresser encore plus sur tes charges, mais ton tendon, lui, il grossit pas directement par la trenbolone. Il va grossir, il va se déchirer, il va s'abîmer avec les charges répétées, la pression anormale exercée sur lui. Tu as une autre famille de stéroïdes, au contraire, qui favorise la synthèse de collagène, c'est la famille nandrolone, décadurabolone. Le problème avec ça, c'est que ça crée une espèce de rétention d'eau qui va faire en sorte que tu ressens moins la douleur parce que les articulations sont plus lubrifiées, mais ça va masquer les pathologies que tu as vraiment. Et une fois que tu arrêtes, tout revient. Il n'y en a pas mille, hein. Il n'y en a pas mille, mais c'est important de savoir. Et vous avez entendu parler des peptides, c'est la même chose, mais dans l'autre sens.
Explique pour les peptides, parce que j'en ai entendu parler, mais tu vois, mais je ne connais pas.
Oui, les peptides, bien sûr, ce sont tout bas.
Les Américains, là, ils s'injectent, ça y va, là, en ce moment-là.
Mais en Europe aussi, t'inquiète, hein.
Ouais. Tout part de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, c'est une chaîne de 191 acides aminés. Peptide, ça va être une petite chaîne de X acides aminés. Chaque chaîne, chaque peptide, va envoyer tel ou tel signal. Et en fonction de tel ou tel signal, le corps a des récepteurs. Ces récepteurs vont agir de manière différente. Tu as les peptides de guérison, qui sont très connus, BPC-157 et TB-500. TB-500 qui est un dérivé de thymosine bêta-4 que le corps produit lui-même. Et en fait, ces deux, en synergie, vont envoyer des réponses anti-inflammatoires, vont enclencher l'activation des cellules réparatrices, etc., etc. Sur le papier, c'est magnifique. Ce qu'on voit sur les réseaux, les forums, ça a l'air incroyable. Le seul problème, le seul hic, c'est la source. Tu peux avoir un truc qui vient de Chine et qui est hyper quali. Tu peux avoir un truc qui vient de Chine. La poudre sur le chemin a été dégradée. Il y a des bactéries dans la poudre. Tu ne sais pas d'où ça vient. Et puis, au final, est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que ça a marché parce que tu as amélioré tout ton contexte, toute ton hygiène de vie, ta diète, ton sommeil, ta récupération?
Et les preuves scientifiques ne sont pas présentes. Hein. Je fais un peu mes petites recherches. Je ne connaissais pas du tout, tu vois. Et je regardais un peu.
Les études sont faites sur les rats.
Ouais, ça.
Les études sont faites sur les rats. Mais là, vous voyez, les sociétés qui se gavent, ce sont les sociétés qui font perdre du poids juste avec des injections. Parce qu'elles jouent. Elles jouent, encore une fois, tout part de leur mode de croissance. Elles vont jouer sur telle ou telle chaîne, mini-chaîne d'hormones de croissance, qu'on appelle les GLP, qui joue sur le glucagon. Vous savez, l'insuline, c'est une hormone qui envoie un message pour transporter et stocker, soit vers les tissus musculaires, soit vers les adipocytes. Et le glucagon, c'est l'hormone antagoniste. C'est quand la glycémie est basse, elle se réveille, elle envoie tel ou tel signal pour renvoyer du sucre dans le sang. Le problème, c'est que le glucagon a une demi-vie de 2-3 minutes et elle est rapidement détruite par l'enzyme DDP4, un truc comme ça. Les Américains, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont augmenté la demi-vie de ce glucagon-like, ça on les appelle GLP, glucagon-like, peptide. Hein, voilà. Il y a plusieurs types. Au lieu qu'elle reste 2-3 minutes, elle peut rester jusqu'à une semaine. Ils ont même joué sur cette enzyme qui l'a détruit. Ils ont été très forts et en fait, ils se sont gavés. Oui, ça marche. Oui, tu as des pertes de poids, mais c'est pour les obèses. C'est pour les obèses qui, encore une fois, comme avait dit Pierre, t'as fait tout ce qu'il fallait avant, meilleure diète, un peu de sport, tu fais attention à l'hygiène de vie, etc. etc. Tu vois que tu n'arrives pas à maigrir malgré tout ça, il n'y a aucun souci pour ça. Mais moi, ce que je vois, parce que je suis à Dubaï et ça se vend comme ça, les gens, ils prennent ça sans faire de sport. Comme ils maigrissent facilement, ils vont se gaver de pizza et de burger devant moi, je les vois. Et ça ne crée en rien une bonne mentalité qui va faire que tu perdures. Le but, c'est qu'une fois que tu arrêtes ça, bah, tu aies gardé de bonnes habitudes et que tu ne fasses pas d'effet yo-yo. Tout le monde fait un effet yo-yo. Je vous le jure, je le...
L'échelle de grandeur de l'hormone qui tient 2 minutes et qui reste 1 semaine. Là, attention les auditeurs, voilà, on est là pour parler de sujets et c'est important qu'on comprenne ce qui se passe. Mais là, on sort de la physiologie, on sort complètement de ce que notre corps est capable de faire. Donc, faites-vous accompagner.
1000%, c'est sport, santé, nutrition. Il y a santé au milieu.
Donc là,
ouais, mais là on joue avec des choses. Quels vont être les retours de cette prise de produit dans 10 ans? On va se rendre compte qu'il y a des effets secondaires potentiels sur les échelles étudiées.
Déjà, les peptides qui font maigrir, il y en a déjà. C'est des nausées, des problèmes intestinaux. Ceux qui prennent ça, ils sont obligés de prendre pendant trucs de protons.
Et l'oméprazole, inhibiteur de la pompe à protons.
Exactement, aux oméprazole ou oméprazole. Sinon, voilà, ils crèvent, ils n'ont pas d'appétit, ils ne mangent rien, ils ne se nourrissent pas. Si tu ne te nourris pas, dégradation du muscle, perte du muscle, etc.
Et c'est un cercle vicieux, ça ne va pas du tout. En fait, on n'est pas encore sur le socle. On parlera peut-être des facteurs de récupération et de ce qui peut miner la récupération chez quelqu'un. Je pense que ce sera intéressant qu'on aborde ça par la suite. Mais peut-être finissez les gars, je pense que vous avez encore des choses à dire là-dessus.
Non, mais là j'essaye de comprendre, tu vois, parce que c'est vrai que l'insuline, tu vois, là, moi j'ai fait un DU micronutrition où j'ai parlé de l'hyperinsulinémie dans tous les processus de vieillissement. C'était super intéressant. Et là, le fait qu'on ait un glucagon-like pendant Exactement. Une semaine, ça vient écraser l'insuline. L'insuline qu'on peut pointer du doigt, mais qui est quand même une hormone indispensable à la vie. Là, notre système hormonal est complètement déboulonné, non ?
Ce sont des choix. Ce sont des choix souvent par facilité. Par exemple, là, les gens qui ont des tendinites qui traînent ou des grosses blessures, premier réflexe, ça ne va pas du tout être d'écouter ce qu'on dit ou d'appliquer ce qu'on dit. C'est-à-dire les 5 minutes d'échauffement, les 10 minutes de renfort articulaire, voir de temps en temps un ostéo, un kiné et tout. Ah non, la facilité, c'est oh, le peptide, il va me guérir tout seul, je fais ça 4 semaines et c'est fini.
Ah, c'est ceux qui sont avancés. C'est l'ibuprofène ou kétoprofène, le H, en facteur 1.
Bah, moi, je pense que ceux qui sont avancés savent que le facteur 1, ça va être ibuprofène ou kétoprofène, encore mieux, kétoprofène local. Dieu merci, ici, ça se vend facilement. Kétoprofène local, tu vois. Le mec qui n'est pas avancé, je te jure qu'il va mieux connaître les peptides que l'effet du kétoprofène.
Et je ne sais pas, parce que moi, tu vois, les patients que je suis, ils ont tendance à beaucoup consommer d'anti-inflammatoires. Alors, peut-être pas beaucoup, mais les molécules de peptides, ce n'est pas trop arrivé en France encore. Hein. Je n'ai pas trop l'impression, tu vois, que ce soit très démocratisé.
Parce que c'est dur à trouver pour l'instant.
Et les peptides, là, tu nous as dit du coup le glucagon-like, mais tu nous as parlé du TB500, tu nous as parlé d'un autre aussi, mais ils n'ont pas le même rôle. Chaque peptide a un rôle bien précis. Parce que j'avais l'impression que c'était plus un activateur de cellules souches ou.
C'est ça, oui. Par exemple, le BPC qui est produit dans. Je ne sais plus si c'est l'intestin ou par les sucs gastriques, quelque chose. C'est trop pointu pour moi, je ne maîtrise pas tout encore.
Active gastrique, apparemment.
Ouais, active des cellules souches, déclenche des réponses anti-inflammatoires, etc., etc. Mais si tu regardes, parce que j'ai écrit, je crois qu'il est là en plus, j'ai écrit cet été un livre, ce n'est pas de la pub, mais juste pour dire, j'ai écrit un livre sur les peptides. Avant d'arriver sur la partie peptide, la moitié du livre, c'est l'hormone de croissance, pour expliquer que tout vient de là. Et dans les peptides, là, on est en train de parler de guérison, de perte de poids, où tu as les sécrétologues d'hormones de croissance, c'est-à-dire que tu as des peptides qui vont dire à ton corps, lui, d'aller sécréter de l'hormone de croissance. Parce que quand tu injectes de l'hormone de croissance pure, c'est là où tu peux avoir des effets de désensibilisation, d'hyperglycémie, où ton corps n'arrive plus du tout à en produire, une espèce de suppression.
C'est un peu des précurseurs de, d'hormones de croissance.
Exactement, sécrétologues, tu vois, qui vont jouer, qui peuvent jouer sur la gréline aussi, etc. Mais tu as des hormones qui vont jouer sur des peptides, par exemple, qui sont pris par des gens, notamment les personnes un peu plus âgées ou les célébrités, sur la longévité. Le glutathione, qui est l'antioxydant le plus puissant. Voilà, il y a tout. Il y en a pour bronzer, il y en a pour améliorer et augmenter la quantité de mitochondries. Si tu as plus de mitochondries, tu as un meilleur métabolisme énergétique. Qui dit meilleur métabolisme énergétique, dit meilleure utilisation du gras. Donc tu vas sécher, mieux utiliser l'énergie, donc mieux performer, etc. Il y a de tout.
Et c'est lequel là pour les mitochondries mais encore une fois, les auditeurs... Les raccourcis, on est encore sur des raccourcis, il faut travailler. Si vous voulez augmenter votre stock mitochondrial, il faut faire de la zone 2, il faut faire de l'endurance fondamentale, aller faire du rameur en salle, aller faire du vélo, aller marcher à l'extérieur.
Il ne faut pas les abîmer les mitochondries déjà. Tu fais ton zone 2, tu fais ce que tu veux, tu prends les meilleurs compléments, nanani. Si au final tu vas manger du poulet frit, tes mitochondries, tu les abîmes.
Toi, c'est le mauvais gras. Hein. C'est vraiment le mauvais gras que tu retiens.
On y est là.
On parle beaucoup du sucre. Mais la bombe, c'est le sucre, le mauvais gras, le stress, le manque de sommeil. Ça, c'est l'explosion, ça.
Tout ce qui va créer des radicaux libres dans ton corps, tout ce qui va créer des radicaux libres vont perturber juste les membranes cellulaires de tes mitochondries. Toutes les cellules ont des récepteurs. Si ces récepteurs sont abîmés, même juste par exemple la résistance à l'insuline. Tes cellules ont des récepteurs, résistance à l'insuline, c'est que l'insuline n'arrive plus à entrer correctement. Et ça, c'est créé par des radicaux libres. Ce n'est pas créé par le sucre en soi. On dit à mauvais titre que la surconsommation ou le fait de prendre des glucides à chaque repas qui fait que ton corps sécrète ou un pic d'insuline à chaque repas, nanani et tout, tu deviens résistant à l'insuline. C'est totalement faux. Le corps, l'insuline est faite pour ça. Le pancréas est fait pour ça. L'être humain est fait pour ça. Il sait gérer ça. Ce qui fait en sorte que des glucides à chaque repas égale pic d'insuline égale résistance à l'insuline, c'est la surconsommation de glucides qui indirectement va créer du gras. Et le gras, lui, dans le corps, il n'a aucune fonction motrice. Il ne va pas créer plus de force. Il n'a aucune fonction positive non plus, à part... chez les femmes, pour assurer l'allaitement et la fertilité, l'accouchement, etc. Ce sont des réserves de vie, mais en surconsommation, en sur-réserve, ça n'a rien de positif.
Salut à tous. Juste pour vous dire qu'on aura le plaisir de vous retrouver au Sommet de l'Hypersanté qui aura lieu le 21 et 22 mars 2026 à Paris. On y animera un atelier sur l'activité physique, les clés de l'entraînement sur la longévité. J'y serai avec Vincent et Alexandre, bien entendu, mais vous retrouverez également tout un tas de passionnés sur la longévité et la santé, des médecins, des nutritionnistes, des chercheurs. Un très beau programme. Je vous laisse consulter. On vous mettra le lien du site en description et on a un code promo pour ceux que ça intéresse pour l'événement. N'hésitez pas à nous y retrouver. On se voit à Paris le 21 et 22 mars 2026. Ciao tout le monde. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrienco, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10. Lien et code en description. Retour au podcast. C'est quoi ta vision de la consommation de glucides dans une journée on parle de quelqu'un, d'un auditeur qui est sportif, tu vois, qui s'entraîne, mettons, aller 4 fois par semaine, parce que... C'est compliqué, tu vois, de voir... Il y a plein de points de vue différents sur cette consommation glucidique. Et tu vois, j'avais pris des notes après le podcast avec Valentin Copin, parce que un des processus les plus négatifs sur l'appareil tendineux, lui, il parlait, bon, forcément, tabac, alcool, sommeil, mais il disait, il n'y a même pas de question, et c'est vrai, il n'y a même plus de question. Pourquoi se poser la question de savoir si l'alcool, c'est mauvais ou si le tabac, c'est mauvais? Le tabac, c'est... On a interviewé Jean-Claude Gamberto, il disait que le seul truc qu'il pouvait voir au microscope sur l'appareil à peau névrotique, les fascias des gens, entre les gens. J'ai essayé de lui dire, est-ce que entre les blancs, les noirs, est-ce qu'il y a des différences? Entre les hommes, les femmes, il y a des différences? Il m'a dit non. La seule chose que je vois, c'est si quelqu'un fume, je vois direct les fascias, c'est désorganisé. Déjà, dites-vous que vous êtes en train de fracasser votre système à peau névrotique en fumant. Mais pour revenir sur le sujet, il y a une problématique de glycation des ponts entre les fibres de collagène. Donc glycation, ça veut dire qu'il y a une perturbation de la création de ces ponts entre ces fibres de collagène par le glucose. Donc il y a une glycation de ces ponts qui n'est plus des ponts qui sont enzymatiques, c'est qu'on appelle ça des crosslinks, qui sont enzymatiques, et ça se vient des crosslinks AGE, ça veut dire qu'ils sont c'est advanced glycation end products, et en fait vous avez des ponts entre les fibres de collagène qui sont caramélisés, et donc vous avez une enraidissement tendineuse et une perturbation de la qualité des fibres de collagène liées à cet excès de glucose. Donc dans quelle mesure est-ce que la consommation... Bon, ça, c'est un effet secondaire de la consommation de glucose, tu vois, je pense en grande quantité et de façon chronique. Comment est-ce que tu vois, mis à part cette histoire-là, je pensais que c'était intéressant de le rajouter, comment tu vois cette consommation de glucides dans la santé générale de l'individu, tu vois?
Déjà, il faut savoir à partir de quel moment, sur un repas basique, tu es rassasié. Quelle quantité, tu vois? Est-ce qu'avec une petite assiette de glucides, donc on va dire du riz, pommes de terre, patates douces, même des fruits, à partir de quel moment tu te sens rassasié, à partir de quel moment tu commences à ressentir un ventre qui gonfle, ou une fatigue postprandiale, ou même un problème de digestion. Déjà, juste ça. À partir de ça, tu arrives à savoir c'est quoi ton potentiel de gestion de glucose sur un repas. Déjà. Ensuite, quel type de glucides tu gères mieux ou tu gères moins bien? Il y a des personnes aujourd'hui qui vont gérer des pâtes très facilement à chaque repas, il n'y a aucun problème. Tu en as par exemple avec du riz, comme il n'y a pas trop de fibres, vont le digérer trop vite, vont avoir faim et vont même développer pas de muscle et faire du gras. Quel type, quelle quantité? Comprendre quand ton corps en a besoin. Est-ce que quand tu te lèves le matin direct, tu as besoin de glucides? Oui, non. Est-ce que quand tu vas faire ton cardio, tu as besoin de glucides? Ça dépend du contexte. Si c'est un cardio à objectif de performance, tu as besoin de glucides, tu as besoin de créatine, tu as besoin de glucides. Et un petit peu de gras pour switch. Si tu vas faire ton cardio dans le but de perdre du gras, donc zone 2, longue durée, ou même à jeun, à partir du moment où tu envoies des glucides, tu fais monter l'insuline, ça bloque la lipolyse. Quel contexte? Si tu fais du cardio...
Épisode 1. Muscu. C'est ouais. Épisode 1 du H, ça. Hein. Il nous avait donné les techniques.
Il faut rappeler, mais c'est comme... Un joueur de foot professionnel, même après 15 ans de carrière, il arrive à l'entraînement, contrôle passe.
La répétition.
La base, les fondamentaux. Entraînement d'hypertrophie, oui, tu as besoin du signal de l'insuline pour bloquer le catabolisme musculaire, enclencher l'anabolisme et améliorer vraiment le transport des acides aminés, des glucides et tout, vers le muscle. En plus, autour de l'entraînement, donc surtout pendant et après, ta sensibilité à l'insuline est plus élevée. C'est comme si tu voyais, tu avais une éponge. Loin de l'entraînement, bah, elle va moins absorber l'eau. Donc l'eau va rester sur ta table ou au sol. Après l'entraînement, l'éponge, elle absorbe quasiment tout. Donc tu dois profiter de ces fenêtres-là. Il faut juste comprendre ça. Et ensuite, c'est pas au bout de 3 jours, au bout d'une semaine que tu as la formule magique. C'est en faisant quasiment les mêmes choses de manière répétée. Tu observes, tu analyses, tu ajustes. Et tu commences à tirer une conclusion.
Il y a vraiment ce timing des glucides qui t'est cher, H.
Alors, le timing des glucides, il m'est cher. Je vais t'expliquer pourquoi. Là, je fais une analogie. On a parlé des peptides. D'où viennent les peptides? Les peptides ne viennent pas de la cosmétique. Ils ne viennent pas des industries pharmaceutiques. Ils viennent du bodybuilding. On peut dire ce qu'on veut. Gonflette, c'est ridicule, nanani. Bodybuilding, c'est là. C'est vraiment... le précurseur de tout ce qui est amélioration plus du corps. Sans bodybuilding, vous avez peut-être 30% de clients de moins. Et moi, pareil.
C'est l'extrême qui malgré tout, exactement, donne des leçons. Ouais.
Exactement, parce que c'est basé sur les hormones. Chaque réponse hormonale crée tel ou tel contexte et réponse du corps. Donc, j'ai oublié, on va parler de quoi?
Des glucides, timing des glucides.
Oui, le timing des glucides. Alors, le timing des glucides, il a été, je crois, je l'ai dit à l'épisode 1, il a été propulsé à un niveau hyper supérieur par l'utilisation d'insuline exogène par les bodybuilders. Les bodybuilders de l'époque, vous connaissez tous Arnold, Lou Ferrigno, le Hulk et tout, ils avaient atteint un certain plateau, physique extraordinaire, hein, des dieux grecs, mais le gap entre eux et les bodybuilders que vous voyez maintenant de temps en temps quand vous ouvrez Instagram, ça n'a rien à voir. Ils sont énormes, ils sont peut-être disgracieux, certains restent magnifiques, mais ce qui a fait le switch entre les corps d'Arnold et les corps des monstres, c'est l'utilisation d'insuline exogène. Insuline liée aux glucides. Ce que faisaient les bodybuilders, c'est qu'ils envoyaient de l'insuline exogène avant, juste avant l'entraînement, 15 minutes généralement. Et souvent, des fois, ils envoyaient ça à jeun, en synergie avec l'hormone de croissance, parce que ça travaille en synergie, et en post-workout. Tu as différents types d'insuline. Tu as la lente, que tu envoies juste une fois dans la journée, qui envoie des petits pics tout le temps, et tu as la rapide. Eux, ils envoyaient l'insuline rapide, qui a deux pics. Un pic à 15 minutes, c'est-à-dire que tu l'injectes, 15 minutes après, boum, elle a son pic dans le sang. Donc, tu te retrouves avec X unités d'insuline d'un coup dans le sang. Si tu n'as pas de glucides, ta glycémie elle est basse, tu fais une hypoglycémie qui est potentiellement mortelle. Si tu profites de cette fenêtre, tu es en train de t'entraîner dur, afflux sanguin de ouf. C'est pour ça que ceux qui envoyaient de l'insuline, ce qui marchait bien sur eux, ce n'est pas l'entraînement lourd, c'est l'entraînement en gros stress métabolique. Beaucoup de reps, beaucoup d'entraînement en circuit. L'afflux sanguin est lié à l'insuline. L'insuline augmente l'afflux sanguin et l'afflux sanguin fait en sorte que l'insuline transporte mieux les acides aminés et les glucides vers les muscles, etc. etc. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que le timing s'est popularisé. C'est la base. Alors oui, il y a eu des études sur la fenêtre anabolique. Si tu envoies tes protéines juste après l'entraînement, tu as plus de chances de... Tu as un environnement anabolique plus favorable. Mais aussi, si tu envoies des glucides avec, la réponse insulinique étant supérieure, ta réponse anabolique va être aussi supérieure. Mais pas que ça, ton corps, tes muscles vont être capables d'augmenter leur stock de glycogène de 50%. Donc ça, c'est des études. Ça vient juste de là.
D'où des glucides intra-workout quand tu es naturel? D'où le fait de prendre des glucides intra-workout. Tu parlais de la maltodextrine, je crois, dans tes vidéos que j'avais regardées il y a longtemps.
Un jus de fruit. Un
jus de raisin.
Jus de raisin. Un jus de fruit, tout simplement. Mais ça, si et seulement si, tu es un minimum sec. C'est important parce que quand j'ai fait la vidéo avec vous la dernière fois, jus de raisin, tout le monde est venu me demander, tu prends quel jus de raisin? Et je vois en fait les photos, les personnes...
ça va tailler.
Sont en surpoids. Tu es en surpoids, c'est-à-dire que tu as un déséquilibre hormonal, œstrogène, cortisol, adipocytes surélevés. Ton corps n'a pas un contexte favorable à la création musculaire. Tu dois d'abord régler ça, baisse un petit peu ton body fat, et ensuite, tu peux penser à la création musculaire. Donc du coup, c'est là ensuite que tu pourras penser à mettre des glucides en intra-workout, sinon tu bloques la lipolyse.
Et là, pour ceux qui se disent « bon ok, le jus de raisin, ce n'est pas pour moi », quelle est la solution pour eux pour qu'ils baissent leur fat? Tu parlais de faire par exemple du cardio à jeun pour activer la lipolyse. Ça peut être en une première partie de la séance à jeun de glucides. On parle d'agent de glucides, hein, parce qu'il peut y avoir un repas le midi avec des fibres et des protéines. Justement, ça va être intéressant de ne pas être en déficit protéique. Et après, la deuxième partie de séance avec d'entraînement de résistance après avoir appris des glucides.
Je crois que tu disais en HIIT aussi, tu veux faire une déplétion des réserves en glycogène pour que le corps aille taper dans les réserves lipidiques.
Oui, c'est ça. Je vais essayer de répondre en deux minutes sur les deux points. Je vais commencer par le HIIT. Le HIIT, pourquoi c'est top? Le HIIT, c'est top parce que ta réserve de glycogène se vide rapidement. Et le corps switch, va utiliser le gras sous forme comme énergie quand soit tu n'as pas de glucides, soit ton niveau de glycogène est bas, pas forcément à zéro. Donc c'est top. Inconvénient, le HIIT, c'est super stressant sur le système articulaire, sur le système nerveux. C'est pas quelque chose que tu peux faire tout le temps, mais c'est top, rien à dire. Pour revenir à ce que disait Pierre, tu disais quoi?
À jeun.
Je l'avais. Oui, à jeun. Ah oui, première partie de séance à jeun et ensuite un bloc d'entraînement. C'est pas top. Pourquoi? Parce que quand tu fais ton entraînement à jeun, que ce soit à jeun, tu te réveilles, ou à jeun, 3 heures postprandial. On considère à jeun, 3 heures postprandial. 3 heures de digestion, la glycémie est assez basse.
Agent de glucides, on parle. Hein.
Agent de glucides, ouais. La glycémie est assez basse pour être considérée comme agent de glucides et pouvoir taper dans le gras. Alors, Quand tu tapes dans le gras pendant ce cardiozone 2, tu vas libérer des triglycérides dans le sang. D'accord. Tu vas les utiliser comme énergie. Quand tu finis ta séance, tout ce que ton corps a libéré comme triglycérides dans le sang n'a pas été complètement utilisé. Donc si derrière tu vas envoyer ton jus de raisin parce que tu fais ton un petit circuit ou un petit peu d'hypertrophie, ou tu manges juste après derrière des glucides,
tu le restockes.
Les triglycérides, exactement, tu vas restocker. Donc c'est tricky.
Et alors, on fait quoi alors?
Ça fait la différence.
C'est on reste à jeun.
Qu'est-ce qui fait le frérot? On mange jamais.
On mange plus.
Pas du tout. On est des... Il faut savoir apprécier la nourriture. Je suis un gros mangeur. Il faut compartimenter. Et il faut accepter. C'est-à-dire que si tu es dans une phase où, merde, je dois perdre un peu de gras, donc si tu as du gras, tu dois te mettre dans ta tête, tu ne peux pas tout faire en même temps. Tu vas pas pouvoir... Déjà, ton corps ne connaît pas de calendrier hebdomadaire. Il y en a beaucoup, tu leur donnes un programme, ils sont là, ah, ben, je vais faire les pecs qu'une fois par semaine. Non, si je te mets les... si je te fais une séance, si je te fais cinq séances type, ton corps, il connaît juste stress, repos. Et il est possible que juste entre deux séances pec, tu aies quatre jours de repos. Ce n'est pas parce que tu as fait tes pecs le jeudi et tu les refais le mardi que c'est une semaine. C'est X jours, c'est 4-5 jours. Donc déjà, il faut savoir déprioriser pour prioriser. Si tu as du gras à perdre, tu as du poids à perdre, tu vas forcément devoir faire un petit peu moins d'hypertrophie. Ça s'appelle déprioriser. Tu ne peux pas tout faire en même temps au même niveau. Il faut l'accepter. Hein.
C'est le focus, être clair avec ses objectifs. On a eu Jean-Benoît Morin qui nous disait c'est vraiment prioriser nos objectifs pour savoir où on va aller et après connaître le chemin. Je voulais parler, on parle de glucides, il y a un truc qui m'a interpellé en t'écoutant sur d'autres épisodes, c'est du coup la charge glucidique dans tes repas. T'as fait appel à la faim, à la satiété, d'observer aussi son ressenti des troubles digestifs. Mais tu as parlé aussi de l'index OMA, qui te permet en fait de connaître ta sensibilité, ta résistance à l'insuline. Et t'as dit qu'il y avait un rapport qu'on pouvait ajuster son apport glucidique en fonction de cet index. J'aimerais bien que tu approfondisses, s'il te plaît.
Bien sûr, ouais. Il y a certaines personnes, naturellement, même sans faire une prise de sang, hein, et voir l'indice OMA que t'as sur la prise de sang, arrive à engloutir une énorme assiette de pâtes ou de pommes de terre ou de riz sans avoir le ventre gonflé ou sans faire de gras. Certaines personnes, juste un petit bol, hein, tu sais, les petits bols que tu as dans Dragon Ball Z, le corps ne gère pas. Et ça, tu n'as pas besoin de prise de sang pour le savoir. Bah, derrière, bien sûr, tu fais une prise de sang et tout, etc. Mais tu le vois très, très facilement. Ça ne veut pas dire que quand tu es ballonné après un repas où il y a des glucides, peu importe la quantité de glucides, ça ne veut pas dire que tu vas transposer ça en gras, stocker ça en gras directement. Ça veut peut-être dire que ta digestion est un petit peu plus ralentie. Tu as peut-être besoin de plus de fibres et différents types de fibres qu'une autre personne. Et le problème vient peut-être du système digestif, au-delà de la sensibilité à l'insuline, etc. Mais ça se voit direct, franchement. C'est là, les gens qui disent juste je vois une pizza, je grossis, on sait très bien que c'est quelque chose qu'on sent au fond de nous, que c'est pas fait pour nous, les glucides.
Vincent, il s'était testé avec un capteur de glycémie. Il faudrait que je le fasse. Moi, je pense que c'est intéressant, tu vois. Bon, c'est peut-être quand on est stade avancé, tu vois, pour voir un peu, avoir des données en plus. C'est toujours intéressant d'avoir des données. Et il faut aussi prendre le temps de les interpréter. C'est ça la problématique. Et avoir les capacités de les interpréter. Ou être assez humble pour dire qu'on n'arrive pas à les interpréter et qu'on ne sait pas. Mais ça, c'est encore plus difficile. Et c'est quoi ton avis sur l'utilisation de ces capteurs? Parce que ça donne quand même une idée en temps réel de ce que ça fait sur ton corps.
Bien sûr. Bah déjà, c'est de plus en plus accessible. Là, les marques de bagues connectées, je sais que vous connaissez Oura. Ouais. Il y a l'autre qui est, je trouve, meilleur, que c'est Ultra Human. Où tu n'as pas d'abonnement. Moi aussi, je l'ai. Excellent. Déjà, excellent. Eux, ils ont intégré un capteur que tu mets sur le triceps pour mesurer justement la glycémie, vraiment tout le métabolisme, score métabolique. Donc déjà, tu es délaissé de cette partie où tu interprètes toi-même. C'est beaucoup plus accessible. C'est pas que les sportifs de haut niveau qui ont ça. Et ça te permet vraiment de voir, en fait, c'est quoi ton potentiel? Comment tu gères l'énergie? Que ce soit, t'as rien dans le ventre, tu fais ton sport, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu fais une hypoglycémie rapidement? Ou est-ce qu'au contraire, ton corps, il arrive à bien stabiliser? Est-ce qu'au contraire, tu as hyper vite besoin de glucides dès le début de l'effort ou au milieu de l'effort. C'est-à-dire que là, tu as un métabolisme énergétique défaillant. Ton corps, il est censé être capable de switch entre le glycogène et les acides gras pour utiliser l'énergie, pas instantanément, mais assez rapidement. Au moins, ne pas avoir d'hypoglycémie. C'est intéressant.
Je parle de mon truc parce que je vais le refaire avec Ultra Human. Ils m'ont filé des capteurs en fait, donc je vais remettre un coup. Et la première fois, c'est que j'ai été prédiabétique, et donc ça a été pour moi une source d'exploration pour vraiment mieux comprendre, et ça a vraiment super bien fonctionné. Donc j'invite tout le monde à le faire, au moins une petite fenêtre de 15 jours pour essayer de mieux se comprendre. Et ce que je veux te dire là, c'est...
Après, tu as fait une prise de sang pour confirmer ou quoi ?
Ouais, ça y est, c'est fini.
Prédiabétique.
Ah ouais, ouais. J'ai pas le droit.
Tu sais quoi ? Tu sais quoi pour être prédiabétique ?
Je peux pas tout dire. J'ai mon petit jardin secret. Non, mais je pourrais t'expliquer. En tout cas, il y a plein de paramètres qui ont fait que, tu vois, j'ai une supplémentation hormonale qui fait que ça vient dérégler un petit peu tout ça. Et donc, voilà, c'est un contexte. Tout ça pour dire que c'est source de connaissance de soi-même sur une fenêtre de 15 jours, pas besoin de faire ça toute sa vie, mais c'est intéressant et il faut que ça soit interprété par un spécialiste. Ce que tu dis sur l'activité physique, là je suis en train de préparer un marathon et du coup ça me donne grave envie de me remettre un capteur pour voir comment je réagis dans mes entraînements. Est-ce que tu as des recommandations de prise glucidique en fonction des types d'entraînement, que ça soit muscu, cardio, tout le spectre qu'on peut avoir dans la muscu, dans le cardio, est-ce que tu as des stratégies différentes ou globalement tu as un socle de timing glucidique ?
Déjà, la muscu, c'est le sport le plus simple. Tu as faim, tu arrêtes ton entraînement, tu descends, tu manges. Tu n'es pas un marathon en train de courir. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu gardes à côté de toi une ou deux briques de jus de raisin. Tu sens que tu as un coup de mou. Le coup de mou veut dire, hop, j'ai besoin. Alors, ça ne veut pas dire que c'est bien, mais bon. C'est très facile pour la musculation. Pour les sports où tu ne peux pas t'arrêter et boire ou manger un truc, tu prends juste un match de foot ou une session de boxe ou un marathon qui est complètement différent. Là, oui, selon le sport, tu dois amener ton corps à utiliser l'énergie de manière la plus efficace possible. Sur un match de foot, glucides lents, ça suffit, et tu as assez de réserves pour qu'ils switchent vers le gras. Tu vas plus te heurter, au lieu de, pas un manque d'énergie, mais tu vas plus te heurter à une mauvaise hydratation, donc à des crampes musculaires, etc., au lieu de hypoglycémie, etc. Marathon, ça n'a rien à voir. Marathon, c'est quelque chose qui se prépare. C'est une alimentation basée sur le gras. Les glucides que tu ingères, ce ne sont pas n'importe quels glucides. Il faut être très léger. Il faut entraîner les fibres lentes. Ça n'a rien à voir. Franchement, le marathon, c'est un sujet à part. Mais tout dépend du métabolisme énergétique. Apprendre à ton corps à utiliser, à switch le plus vite possible et efficacement possible entre le glycogène et le gras. C'est ce qui fait la différence.
La flexibilité.
La flexibilité métabolique, c'est vraiment ce qui fait la différence. Sinon, tu as tout le temps besoin de faire le plein d'essence, ce qui n'est pas possible.
Comment je m'entraîne à cette flexibilité métabolique ?
Alors, selon le contexte, selon les cas, obésité, hygiène de vie, si tu as habitué ton corps à des glucides à chaque repas, bonne ou mauvaise qualité. En plus de ça, tu as alimentation inflammatoire, 2-3 fast-food par-ci par-là, des huiles par-ci par-là, mauvaise viande grasse par-ci par-là.
Le H.
Il va nous faire la parenthèse après, Vincent, laisse-le finir.
Ouais. Ouais, non, ouais.
Allez, le H, là, vas-y.
J'essaye de faire court. Le jeûne intermittent, c'est un des meilleurs remèdes pour la flexibilité métabolique. Ça force ton corps à aller puiser dans tout ce qu'il peut pour survivre, entre guillemets. 16-8. Super simple.
16 heures à jeun, 8 heures de fenêtre où vous alimentez.
T'arrêtes de manger à 20h, 21h. Le lendemain, tu manges à 11h au midi. Top, rien à dire. Déjà, juste ça. Ensuite, supprimer les aliments qui font en sorte d'abîmer tes mitochondries, donc tout ce qui crée des radicaux libres, la base.
Comment péter les mitochondries, le H ?
Il t'a dit, mauvais gras, tout ça, faire 150 kilos.
Une huile que tu fais monter à haute température devient instable. L'instabilité va créer des radicaux libres qui vont abîmer tout ton système interne. Déjà, si tu enlèves ça, ça commence à respirer. Et avec le temps, ça va mieux, ça ira mieux.
Quid du air fryer alors ?
Air fryer, t'as pas besoin d'huile.
Mais tu fais quand même chauffer à haute température les aliments, tu vois. Les corps gras qui sont dans l'aliment, tu les fais chauffer à haute température, même si tu rajoutes pas de l'huile végétale en plus. Qu'est-ce que t'en penses alors là-dessus ?
Un blanc de poulet, il a pas trop de gras, tu vois.
Ouais.
Un poisson, il a pas trop de gras. Et t'es pas obligé de chauffer à 220. Je préconise toujours 182. C'est très très bien. Si tu en plus tu l'entoures, tu le badigeonnes de yaourt, ça préserve côté juicy, c'est top. Là, par contre, si tu ajoutes de l'huile, certaines températures, ils deviennent très très instables. Les mauvaises huiles, c'est pas bon. Généralement, les huiles, l'huile d'olive, tout ça, on l'attribue des très très bonnes vertus, c'est quand c'est pris à froid.
Et oui, on perturbe tous les antioxydants qu'il y a dans l'huile d'olive assez rapidement. Même si le point de fumée, il est assez haut quand même de l'huile d'olive. Hein.
Il est assez haut, ça va. Bon, il est assez haut, ça va, mais ce qu'on nous vend...
Oui. C'est ça, on a fait un épisode avec David Nicolas qui commercialise son huile d'olive avec un taux d'antioxydants qui est contrôlé et testé et qui est de très haute qualité. En fait, vous nous parlez du profil en acide gras tous les deux, là. C'est ça, c'est le ratio entre oméga 3 et oméga 6. En plus, toi, tu nous parles même pas des oméga 6, tu me parles des acides gras trans avec cette cuisson à haute température. Donc, finalement, pour le gomuscu, parce qu'on parle des stéroïdes qui créent un retard et un écart d'adaptation entre le muscle et le tendon. Mais si en plus il y a un déficit de sommeil, si en plus il y a des soirées avec des clopes et un peu d'alcool, et si en plus il y a un profil en acide gras qui est catastrophique, on a tous les ingrédients pour que la machine explose. Comment faire pour équilibrer ce profil en acide gras, le H, chez le gomuscu ?
Surtout quand on s'entraîne, il y a quand même une notion d'inflammation dans l'entraînement, qu'il soit musculaire ou cardiovasculaire, qui on joue avec ça quand même.
Le border, oui.
C'est l'inflammation qui va faire en sorte que ton corps répond et à l'hypertrophie ou à la guérison, au système immunitaire, etc. Il faut savoir ce dont ton corps est capable. C'est tout bête. Tu sais que après 2h du matin, quand tu sors, t'es cuit. Un truc basique. Tu commences à connaître ton corps. Il faut connaître son corps. Il y a des personnes qui... Tu prends des athlètes de haut niveau. Les Ronaldinho, les Eden Hazard et tout, ils sortaient en boîte. Le lendemain, ils claquaient des doublés, des triplés. Jusqu'à 30 ans. C'est-à-dire que il faut savoir réévaluer son corps. Ce que tu faisais à 20 ans, tu vas peut-être le refaire à 25, mais tu vas aussi peut-être pas le refaire. La même chose à 30 ans. D'où le fait de ne jamais se comparer. J'ai toujours des élèves où je croise des gens. Ouais, avant, je faisais ça au bench. Avant, j'étais sec. C'était avant. Moi aussi, avant, t'inquiète. C'était avant. Le corps, il évolue. Pas forcément négativement, mais il évolue dans toutes les directions. Il faut savoir qui tu es, selon t'es capable. T'es capable de faire la bringue tous les week-ends, vas-y. Tu te couches une fois à minuit, tu te transformes en gremlin, c'est pas pour toi.
Après, on a le droit de se transformer en gremlin si on veut, une fois de temps en temps. C'est...
Oui, t'inquiète pas, moi je suis un loup-garou.
Voilà. En conscience.
Mais si vous mettez des gros volumes d'entraînement dans le nez, et ça implique de grandes responsabilités et de gérer sa récupération comme il faut.
Tu vois, on a eu Fred Cossé sur. Je te parlais du kiné là, qui nous a parlé de l'individualité et il disait ce socle de santé. Peut-être on peut finir par ça, les gars, si ça vous dit de vraiment qu'est-ce qu'on peut faire sur notre récupération, notre longévité, l'hygiène de vie, ouvrir cette page-là. Et il disait que c'est ce socle de santé, c'est ce qui nous permet d'aller vers la pyramide de la performance. Et donc, il faut ce socle pour avoir la performance. Et encore une fois, on n'est même pas sûr d'aller vraiment chercher la performance. Mais sans ce socle, en tout cas, on n'en est pas capable.
Je suis d'accord. Et il faut aussi te poser la question de quels sont tes objectifs dans la vie, qui es-tu ? Alors moi, c'est une question que je ne me suis pas posée. Je déteste parler de moi, mais c'est juste pour illustrer. Je ne me suis pas posé pendant longtemps. Et à un moment, j'étais là, oui, muscu à fond. Des trucs de ouf, hein. Sport de combat à fond, jiu-jitsu, kickboxing, lutte. Je me retrouvais, en fait, à moins travailler, arriver dans un engrenage où je suis là, Coupe de France de jiu-jitsu, en fait, président. Et après, une fois que j'ai eu mon accident, Dieu merci, je me suis posé avec moi-même et j'ai réfléchi. Mais en fait, c'est pas moi qui je suis un businessman. Je suis un businessman, donc je dois mettre de côté les objectifs de performance. Si, à contrario, j'étais quelqu'un qui voulait devenir quelqu'un dans le domaine du sport, quel qu'il soit, foot ou sport de combat, là, je dois axer ma vie vers les performances. C'est juste poser la question, qui es-tu ? Qui veux-tu être ? Parce que quand tu veux tout faire, je te promets que tu fais tout mal. Il n'y a pas un domaine que tu vas faire bien, que tu vas bien gérer.
Tu ne peux pas tout faire en même temps. Tu ne peux pas prendre de la masse et sécher en même temps.
J'ai des élèves, je te jure. Hein. Prise de masse, perte du gras. J'ai besoin de boire du vin 3-4 fois par semaine. Aerox, marathon de Londres. Augmenter mon PR au squat, augmenter mon PR au développé couché. Tu te rends compte ?
Et le H, je veux être,
quand tu ne sais pas faire ça.
C'est pas, tu sais, on a à peu près la même tranche d'âge. Ouais. Est-ce que ça ne nous amène pas à se poser la question de vraiment qui on est ? Est-ce que ce n'est pas l'âge où on se pose ces questions-là et on change de curseur, on change d'objectif ?
Ce n'est pas qu'on change d'objectif, c'est juste qu'en fait, qu'on voit plus clair sur l'objectif, je pense. Parce que quand on arrive dans le cycle supérieur, je ne sais plus comment on dit là, pour les études, on a la tête dans le guidon. Il faut finir les études. Ok, tu sors un peu, tu fais un peu de sport. Au final, tu ne sais vraiment pas ce que tu veux, dans quoi tu es bon, dans quoi tu n'es pas bon. Et là, avec le temps, tu te rends compte que bah, okay, je suis fait pour ça, je ne suis pas du tout fait pour ça. J'aime ça, je fais ça avec passion. Ça, je fais ça à reculons. Et petit à petit, l'entonnoir se resserre et... Tu sais qui tu veux, ce que tu veux, où tu veux aller. C'est mon avis.
Ouais, c'est de définir. Bon, y a un concept que j'aime bien, c'est les zones de génie. Définir les zones de génie, d'excellence, de compétence et d'incompétence. Et ça reprend un peu le concept aussi d'Ikigai. C'est finalement, quelles sont les deux, trois zones de génie où vraiment je résonne, je suis en énergie, je suis très, très bon à faire ça. Et essayer d'associer une activité ou peu importe, mais. Essayer d'associer ces zones de génie sur une même tâche.
C'est ça. Et analogie, j'ai eu quelques problèmes avec quelques élèves où ces élèves, comme 98% des gens, ne sont pas faits pour être musclés secs. Quoi que tu fasses, même si tu vas leur mettre les peptides et les stéroïdes dont j'ai parlé, elles auront un corps de personne naturelle, au mieux. Au bout de X mois où tu leur fais faire tout, nutrition, compléments, prise de sang... entraînement, etc., je suis obligé de leur dire, tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es ni fait pour être sec, ni fait pour être musclé, ne serait-ce qu'un peu. Je ne te parle pas d'être stock, je te parle de musclé un peu. Déjà, c'est très dur à dire pour moi, mais je suis obligé de le dire. Là, le problème auquel je me suis heurté plusieurs fois, c'est la manière dont je dois le dire et comment la personne l'interprète. Parce qu'en gros, ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes de lutter contre ta nature. À partir du moment où tu luttes contre ta nature, tu ne seras jamais heureux, tu seras toujours à la quête de quelque chose d'inaccessible et tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ta vie, tu vas passer à côté d'autres choses. Tu es peut-être fait pour être excellent dans d'autres domaines, mais tu ne le sais pas. C'est super important. Dieu merci, la moitié de ces personnes que je remets en place, et que ce n'est pas facile pour moi, reviennent des années plus tard en me disant oh, « Merci, tu m'as ouvert les yeux, c'était dur au début, tu m'as ouvert les yeux, je me suis mis dans un autre sport » ou peu importe.
Là, tu parles d'aptitude physique. Donc, tu vois quand même qu'il y a des profils où, selon moi, tu peux toujours améliorer, tu vois. Mais tout dépend de ce que tu veux atteindre. C'est sûr que les objectifs physiques de tous les gars qu'on voit, des influenceurs fitness qu'on voit sur les réseaux, ben, pour le gars lambda qui veut juste s'entraîner 3-4 fois par semaine, et pas gérer sa diète comme un ouf, mais c'est pas réaliste, quoi.
Exactement, en fait. Le culturisme, le bodybuilding, tu appelles ça comme tu veux, c'est le seul domaine où tu as besoin, où le facteur X, le facteur limitant, ça va être ta génétique et tes hormones. Tu peux performer sur un sport normal en étant naturel. C'est juste de l'entraînement. Bonne hygiène de vie, entraînement, répétition. Aerox, tu peux performer, tu n'as pas besoin de produits dopants. Foot, sport de combat, marathon, c'est très dur quand même. Par contre, où tu veux jouer contre la nature, c'est-à-dire développer des muscles, c'est pas possible.
Il n'y aurait pas aussi un facteur limitant, là on parle de création d'adaptation, activité, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un facteur limitant génétique aussi sur notre faculté à récupérer ?
La faculté à récupérer, bien sûr, ça dépend du niveau hormonal, testostérone, hormone de croissance. Tu vois aussi, ton facteur limitant, c'est la myostatine. Et les Américains sont en train de travailler sur un peptide qui existe déjà, mais un vraiment peptide très très puissant, qui va jouer sur ta myostatine. Toujours sur ta myostatine, plus ou moins, tu augmentes ta limite de création musculaire.
Tu peux rentrer en profondeur dans cette myostatine.
Par exemple, tu vois un gorille, tu vois un buffle. Tu vois un buffle, voilà. Ils sont énormément musclés en mangeant, en broutant de l'herbe.
Bison. Bison.
C'est parce que leur gène de la myostatine a un degré différent de l'être humain. Alors, nous, pourquoi est-ce que notre degré est tel aujourd'hui ? Peut-être parce que s'il est plus élevé, on va crever. Le cœur ne va pas supporter, ou on n'est pas fait pour ça. On va s'entretuer, ou je ne sais pas. Mais là, les Américains sont en train de jouer sur ça, c'est le facteur limitant.
C'est quoi la myostatine, exactement ?
La myostatine, c'est une protéine qui bloque la quantité de masse musculaire que tu es capable de créer ou non. Et le peptide qui existe aujourd'hui, c'est la follistatine, qui joue sur la myostatine. Mais les Américains sont en train de développer un truc.
Et sur la récupération, on entend beaucoup parler de créatine. Là. En ce moment, c'est vraiment à la mode. Tout le monde en parle. Effets transversaux sur le système musculaire, cérébral. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui amènent des preuves solides. Est-ce que pour toi, dans l'axe récupération ou dans l'axe entraînement, est-ce que pour toi, c'est un essentiel ?
Du tout. La créatine, c'est à des fins de performance. La créatine joue simplement sur le système énergétique créatine phosphate, sur l'ATP. Sur un effort, ton corps, il utilise d'abord l'ATP, puis tu prends un graphique, tu as trois courbes. ATP, ensuite glycogène, et ensuite, ça c'est la courbe de temps, et ensuite acide gras. N'utilise jamais une des trois voies de manière isolée. Il y a toujours une transition. ATP plus glycogène et ensuite glycogène.
Oui, c'est toujours hybride.
Voilà, toujours hybride. Le corps stocke son ATP dans le muscle et aussi dans le cerveau, 10% dans le cerveau. Donc c'est pour ça que dans les études te disent oui, la créatine a des effets sur le cerveau. Oui, si tu augmentes tes quantités de créatine, tu vas augmenter tes quantités d'ATP. Forcément, ça va jouer un petit peu sur le cerveau, mais ça ne joue en rien de manière directe sur l'hypertrophie ou la récupération ou la musculation. Ce qu'on nous fait comprendre ou qu'on interprète de mauvaise manière, c'est comme tu as plus pouvoir produire de l'ATP sur un mouvement court et intense, exemple ton développé couché, ton 5x5 ou ton 10x10, et ben avec de la créatine, tu as bien prise pendant plusieurs semaines pour que ça sature bien tes muscles, tu vas pouvoir faire 10 fois. C'est ce gap, tu vois, c'est ces 2 reps en plus sur ces 10 séries qui vont faire que indirectement, tu augmentes ton stress, ta tension mécanique et ton corps va répondre et créer plus de muscles, etc. Mais en soi, c'est juste un complément alimentaire pour la performance. Faites du foot, ça, prenez-en.
Ça, je comprends bien. Donc, ça amène cette première filière qu'on aurait pu dire de production d'ATP. Ce que j'avais cru comprendre, c'est que la créatine amène en fait une source d'ATP et que ça soit dans tout ton processus de métabolisme énergétique, tu as des étapes qui sont ATP dépendants. Et donc, je pensais que cette créatine, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, amenait un stock d'ATP pour fournir cette énergie sur les réactions chimiques qui ont besoin d'ATP dans la glycolyse ou dans le cycle de Krebs dans la mitochondrie.
Bien sûr, ça va jouer dans tous les systèmes énergétiques, les voies énergétiques du cycle de Krebs, etc., même le lactate. Mais en soi, c'est juste mal interprété et mal utilisé. Alors, c'est détourné pour vendre, parce que voilà, la clientèle de bodybuilding, de musculation, elle est énorme, donc il y a un marché à prendre. C'est pas fait pour la musculation, c'est excellent pour les sports de performance, c'est même indispensable. Par contre, là où les gens n'en parlent pas, les études n'en parlent pas, c'est oui, 90% des gens qui prennent la créatine l'absorbent mal, parce qu'ils la prennent avec un liquide froid. Il a besoin d'être un minimum tiède, chaud, pour que ce soit absorbé. Sinon, si tu sens que tu vas au shot direct, ou tu as des problèmes intestinaux, digestion après la créatine, mal absorbé. C'est le plus important.
J'ai reçu le docteur Mouton qui disait 3 grammes de créatine tous les 2 jours. Parce qu'il y aurait un phénomène de saturation des transporteurs sur la créatine. Et donc, ce qu'il conseillait, c'était de pas prendre tous les jours pour permettre en fait à notre corps de pas avoir une résistance à la créatine comme on pourrait avoir une résistance à l'insuline.
3 grammes, c'est pas beaucoup. Hein.
Ce que je fais en tout cas. Et quand tu parlais du buffle et tout, c'est vrai que ça me parlait bien, quoi.
Tu t'associes à un buffle.
Bien sûr.
Mais un buffle qui court vite.
Il court longtemps.
Oui, putain, c'est ça.
Non, mais tout ça, c'est intéressant. Franchement, le H, ben, je m'attendais pas à ce que tu me dises non à ma question sur la créatine. Parce que vraiment, il y a un boom, tout le monde en parle. Je pense que Instagram, les réseaux.
Ça fait 10 ans, Vincent. T'es en retard, là.
Non, mais vraiment, il y a plus de monde qui parle de ça sans trop s'y connaître. Et je pense qu'on est aussi sur des réseaux qui sont sur l'instant et qui coupent vraiment l'essence même de cette supplémentation qui peuvent être intéressante. Mais là, on voit des réels, des trucs passés en 30 secondes. On dirait que c'est le produit miracle, mais c'est bien que tu recentres un petit peu.
Pour l'intensité, ça va être intéressant parce qu'on va gagner en volume qu'on va pouvoir produire sur de l'intensité.
Bien sûr, pour les efforts à intervalles, indispensable. Foot, prise d'appui, boxe, tu vois. Marathon, un petit peu moins, bien sûr, beaucoup moins même.
Mais sur les 400 mètres, tu vois, sur des 10 fois 400, boum.
Je faisais de l'athlé 100 mètres avec créatine, 100 mètres sans créatine, n'a rien à voir. Quand je faisais avec le 100 mètres avec la créatine, quand j'arrivais à 80, j'étais cuit. C'est-à-dire les 20 mètres, c'était... avec la créatine, corps 11-0-0, attention, je pouvais aller à maximum de ma vitesse jusqu'à 120 mètres. Par contre, à la muscu, c'est pas un truc que tu vas sentir. Indirectement, peut-être, oui, mais...
Attention quand même à l'effet hypoglycémiant de la créatine. À ne pas prendre le timing de la créatine, c'est en dehors des entraînements.
Oui, oui, il faut un petit pic d'insuline ou tu vois, même du sel, ça suffit.
Mais pas en intra-workout alors, ou en pré-workout?
Non, ça sert à rien, puisque c'est pas quelque chose qui va agir rapidement. Instantanément. Mmh. Ça marche comme la carnitine en saturation.
Et intéressant, parce qu'avec le docteur Mouton, tu vois, il nous avait parlé de cette synergie entre la carnitine et la créatine. C'est deux produits qui, comme le nom l'indique, la carnitine peut provenir en partie, hein, pas autant dosée qu'en supplémentation, mais de la viande rouge. C'est toujours pareil. Est-ce que c'est aussi intéressant que la créatine, la carnitine?
La carnitine, ça n'a rien à voir.
C'est pas le même rôle.
En fait, c'est un mix entre complexe de vitamines et acides aminés. Ça n'a pas le même rôle. Je connaissais les synergies entre caféine, créatine, bêta-alanine et créatine. Encore une fois, c'est pour tout ce qui est tampon, acidité musculaire, endurance musculaire, effort explosif. La carnitine, ça se ressemble avec la créatine sur l'effet saturation. Ça met du temps et le pic d'insuline pour aller dans les muscles. Transporteur glucate. Ça met du temps à saturer, ça met du temps à agir. Mais c'est très, très bien pour favoriser l'utilisation des graisses comme énergie. Moi, je le vois comme un intérêt pour la fertilité. Ça aide énormément sur la fertilité. Et c'est le seul complément alimentaire, presque sûr, qui joue sur la capacité de tes récepteurs androgènes. Récepteurs androgènes, c'est ce qui fait en sorte que ta testostérone qui circule dans le sang, exogène ou celle produite naturellement, plus tu as des récepteurs qui sont propres ou en quantité, plus ta capacité, etc. Donc c'est le seul qui joue sur ça, c'est très intéressant, moi je conseille à tous mes élèves.
Et le carnitine, tu supplémentes comme ça, entre guillemets, à l'aveugle, ou est-ce qu'il y a une mesure que tu peux mettre en place?
Alors, ça marche bien, on est surdosage. 2 à 3 grammes, pris 2-3 fois par jour. Ça marche bien. Si tu prends en dessous, tu vas pas sentir ou voir les effets. On est sur dosage, ça marche super bien.
La créatine?
Franchement, 5 grammes, ça suffit.
Oui, mais 5 grammes tous les jours, quoi.
5 grammes, ça suffit. J'ai une préférence pour la créatine HCL, hydrochloride, parce que c'est quelque chose où tu sens l'effet instantanément. Quand tu vas taper un foot ou une boxe, ou plus performer à la salle, tu vas le sentir.
Vincent, qui prépare son marathon, c'est intéressant que ce soit pour les coureurs qui l'utilisent beaucoup moins. C'est les boosters, tu vois, la L-citrulline, la bêta-alanine et forcément des glucides en intra-workout. C'était bien connu quand même dans le monde de la musculation, tout ça. C'est pas trop mis en place, tu vois, en athlétisme, en tout cas, selon moi. Quel serait l'intérêt d'en prendre? Ou est-ce que c'est encore... de la micro-optimisation et surcoté.
C'est pas du tout de la micro-optimisation. Sur le marathon, ça n'a rien à voir parce que
Non, mais pareil, il fait du fractionné. Non, mais il fait des 10 fois 400, ça. Tu vois. Et oui, mais sur un 40 km, ça sert à rien d'en prendre avant. Non. Tu vas te cramer sur les 5 premiers kilomètres. C'est ça. Faut tenir.
Il faut analyser quels sont les problèmes rencontrés lors de l'effort. Est-ce que c'est un manque d'énergie? Donc l'énergie, ça va être soit glucides ou gras. Ou est-ce que ça va être crampe, acidité? Vous voyez, des choses comme ça. Là, si c'est ça, la bêta-alanine va prolonger ta capacité à gérer l'endurance, l'acidité, etc. Donc, plus d'endurance musculaire, c'est excellent. La taurine, tu ralentis l'apparition des crampes, c'est excellent. Les électrolytes, la base. Citrulline, ouais, meilleure circulation sanguine, production d'oxyde nitrique, etc. C'est bien, mais à double tranchant. Tu peux provoquer une surcongestion. Et toi-même, tu sais, Vincent, je pense que quand tu cours, tu sens que tu as les jambes congestionnées, ça te ralentit, tu vois. Donc voilà, il faut jouer. Après, si tu vois que tu as une surcongestion, joue sur la fluidité du sang, etc.
Mais tu vois, j'y vais encore, tu vois, sur ce sujet-là. C'est par exemple sur, on prend deux situations, tu vois, un mec qui veut faire une séance de force ou d'intensité en muscu, et on peut faire le parallèle avec de la course à pied ou quelqu'un qui va aller sur piste, il met ses chaussures avec les pointes. Il va pas faire un footing, tu vois, il veut se désosser, tu vois, il veut finir, il veut aller zone rouge. Donc, tu vois, il veut vraiment travailler de la vitesse, donc mettre de l'intensité. Quel serait le mix parfait à prendre pour ce genre de séance, tu vois?
Pour compléter ce que dit Pierre, peut-être qu'on pourrait faire intensité, cardio, endurance et un autre versant, quantité, volume, musculaire et endurance. Est-ce qu'il y a des stratégies intensité, volume qu'on pourrait mettre en place?
En nutrition.
En ce que tu veux, en H.
Donne tout.
Veux tout.
Mon poids de corps. On est d'accord que si tu es léger, c'est très très bien pour un marathon, même un 400 mètres ou un foot. C'est pour ça que les joueurs de foot ils doivent avoir un poids de forme, ce qu'on appelle le poids de forme. Généralement, c'est taille moins 4-5 kilos. C'est vrai, hein, tu sens direct. Une personne en surpoids, ça c'est votre domaine. Chaque kilo en plus, c'est vraiment, je ne sais pas combien de pourcentage de pression en plus sur telle ou telle articulation, mais déjà, le poids de corps. Si tu prends tous les meilleurs compléments qu'on a cités, même les peptides et tout, parce qu'il y en a, hein, des trucs qui vont jouer sur les capacités à dépasser encore plus que les bêta-alanines, tout ça, si ton poids de corps déjà ne correspond pas, déjà, ça ne sert à rien. Joue sur ton poids de corps. En plus, tu évites les risques de blessures. Soit tu vas flinguer tes chevilles, tes genoux, ton dos, etc. Attention, surpoids, pas que du gras. Moi, par exemple, à 90 kg, 1m80, je fais un foot. Là, je sens. Je ne suis pas en train de parler que du gras. Attention. Si tu as un bon poids pour tel ou tel sport, là, tu prends les sports d'explosivité. Il faut des glucides qui circulent dans ton sang. Pas trop. C'est-à-dire que tu dois savoir quel est ton timing de digestion qui fait en sorte que quand tu prends tes glucides, tu arrives à performer sans sentir que c'est sur ton système digestif. Est-ce que c'est 30 minutes avant? Est-ce que c'est une heure avant? Il y en a une banane 30 minutes avant, c'est nickel. Il y en a encore une heure après, elle est là, la banane. Prendre des galettes de riz, prendre du miel, un peu de jus de betterave, peu importe. Une fois que tu as trouvé ton timing, ton type de glucides et ta quantité, déjà, premier step, il est top. L'huile de coco. L'huile de coco, c'est un acide gras qui se convertit très, 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 très rapidement
MCT.
En énergie. Voilà, MCT8. Très, très rapidement en énergie. C'est, franchement, testé. Hein. Vous avez votre protocole du glucide pré-entraînement, quel qu'il soit. Une petite cuillère à café d'huile de coco, les 10 grammes d'huile de coco vont faire la différence. Et après, tu incorpores les compléments alimentaires. Bêta-alanine, taurine, électrolytes, etc. Et là, après, si tu es dans le dopage, t'as la salbutamol, la molécule de la ventoline. Tous les joueurs de foot, à un moment, il y avait une année, sur l'équipe de Liverpool, quand c'était Jürgen Klopp l'entraîneur, t'en avais 22 qui étaient officiellement asthmatiques. Officiellement asthmatique, ça veut dire que tu as le droit à la prescription à la ventoline et à dépasser les dosages d'une personne non asthmatique. Et ça, c'est du dopage. La capacité d'oxygénation...
Bronchodilatateur, oui.
De ouf, ça n'a rien à voir. Bon, c'est un petit peu dangereux si tu dépasses le dosage parce que le cœur, il envoie. Bon, après, t'en as d'autres. Je sais plus c'est quelle année.
Vous êtes des ouf, les gens qui prennent des molécules comme ça. Il faut que vous arrêtiez, là.
les Russes qui avaient tout raflé sur les épreuves de natation, ils utilisaient le meldonium. Meldonium, c'est un truc...
Ça me fait peur.
Magique, magique, qui prolonge vraiment la capacité cardiovasculaire incroyable. Et tu as un autre SARM qui s'appelle le cardarine. Alors lui, c'est vraiment endurance illimitée. Mais tout ça, c'est du dopage.
Et la stratégie volume ? Du coup, endurance plus plus ?
Attends, juste sur les dosages bêta-alanine et L-citruline, là. Donne-nous le...
Ouais, tu veux te mettre le shot du bêta-alanine ou quoi ?
Oui, il faut que je teste la bêta-alanine et L-citruline, bien sûr.
Ouais, bah bêta-alanine, c'est 3. L-citruline, c'est 6 à 8. On commence avec la moitié, tout petit à petit. Et mélange avec un peu de jus de betterave, c'est top.
Allez, c'est pour vous 1000% là, qui fait ça le H. Hein. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrienco, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10. Lien et code en description. Retour au podcast. On a découvert Lucie et on est fan. C'est 2 check-ups complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendue enfin accessible au plus grand nombre, à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life. Choisis ton test et entre le code PODCAST1000 pour une réduction. Lien et code en description.
Bon, et pour moi, là, vas-y, là, je vais faire un marathon en dessous de 3 heures. Là, et qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais pour y aller là ? Vas-y. Après, vrai, l'objectif est élevé, hein, mais pas sûr d'y arriver, mais c'est le chemin qui compte.
Bah là, on en revient sur l'individualisation. Là, le protocole pour toi va être adapté uniquement à toi, à ton âge, à ton poids de corps, tes antécédents. En plus, tu dis que tu étais sous traitement hormonal, prédiabétique, etc. Donc, ça n'aura rien à voir. Le volume va dépendre de ta capacité à récupérer. Parce qu'on parle souvent de surentraînement, mais le surentraînement, c'est, tu regardes le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, c'est plus de la sous-récupération. Tu vois, une personne qui va s'entraîner tous les jours, si sa capacité de récupération est optimale, il n'y a aucun problème, ce n'est pas du surentraînement. Une personne qui va s'entraîner 5 fois par jour, si même juste avec 30 minutes de muscu, elle n'arrive pas à récupérer, il va y avoir du surentraînement parce qu'il y a la sous-récupération. Il faut adapter.
Comment tu optimises la récupération du coup ? C'est quoi tes piliers de récupération ?
Numéro 1, sommeil. Pourquoi sommeil ? Parce que lors du cycle de sommeil profond, c'est là que ton corps va sécréter l'hormone de croissance. Et l'hormone de croissance qui va ensuite... dire au foie de sécréter l'IGF-1, c'est l'IGF-1 qui s'occupe de la réparation articulaire, réparation cellulaire, pas l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, elle, son rôle principal, c'est de se fixer sur les cellules graisseuses et de les faire imploser, entre guillemets. C'est pour ça que ça a un effet lipolytique hyper puissant. Mais si ton sommeil n'est pas bon, tu n'atteins pas ton cycle profond ou le cycle profond n'est pas assez long, tu ne vas pas sécréter assez d'hormones de croissance qui va envoyer un message au foie pour lui dire sécréter l'hormone de l'IGF-1 pour ensuite récupérer la base, le sommeil. Donc là, yep. Si tu parles de sommeil, on peut en parler une heure, optimiser le sommeil.
Et sur la
sérotonine, sur la dopamine, etc.
Les autres piliers de récupération ?
Piliers de récupération, écouter son corps. Ça veut dire tu es dans une période où ça ne va pas au top mentalement, au niveau personnel, au niveau professionnel, va pas chercher à surperformer tous les jours à la salle. Déload un peu, relâche un peu la pression, parce que le stress, c'est la source de blessures, c'est la source de maladies, mentales ou physiques. Système nerveux défaillant, il n'y a rien qui va derrière, et ça va être le serpent qui se mord la queue après. Il faut savoir s'écouter. C'est vague en soi, mais il faut...
Je suis surpris, hein. Je ne m'attendais pas à ce que tu parles autant de ressenti. C'est vraiment, tu ressors souvent ce ressenti. Voilà, tu parlais de la faim, tu parles de la fatigue. C'est essentiel. Nous, on en parle beaucoup sur 1000%.
C'est normal, parce que sinon, en fait, tu vas juste suivre une feuille de route ou un fichier Excel. Et tout le monde doit le suivre. Il n'y a pas d'individualisation.
Je pense que les gens, il faut aussi qu'ils se rendent compte que quand tu mets des entraînements de haute intensité dans ta semaine, tu ne peux pas être tout le temps à haute intensité. Il faut varier aussi les intensités d'entraînement. Ce n'est pas parce qu'un entraînement est de basse à moyenne intensité qu'il n'est pas utile. mais ça te permet aussi de t'entraîner et de faire du volume à moindre coût énergétique et permettre de récupérer tes gros entraînements aussi, tu vois. C'est très démocratisé en course à pied. C'est pour faire encore le lien avec ça, tu vois, de faire varier ses hautes intensités et faire aussi de la basse intensité pour avoir du volume. Et ça, tu l'encaisses bien. J'ai l'impression qu'en musculation, c'est moins démocratisé.
Ouais, musculation, je t'assure. Enfin, je vous assure, les gars, en fait, c'est une discipline qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu as d'un côté les professionnels, donc qui utilisent des stéroïdes où, en fait, les dés sont pipés. Ce n'est pas les mêmes règles de la nature. Récupération. Tu peux être en déficit calorique, tu peux t'entraîner hardcore tous les jours, ton corps il va récupérer, il va continuer à grossir. Pas indéfiniment, mais à grossir. Et d'un autre côté, les naturels. Les naturels qui en soi se fixent des objectifs de non naturel, mais pour s'entraîner de manière réactionnelle, récréationnelle, manière de qualité piètre, hygiène de vie piètre, ou au contraire vont tout donner, mais ne se sont pas faites pour ça. Donc c'est vraiment une population disparate, mais il n'y a pas de règle pure pour ce domaine.
Et la longévité dans tout ça, là, on avance dans l'âge, on a pris conscience de qui on était, on a clarifié nos objectifs, l'objectif, c'est quand même de se faire plaisir et de durer dans le temps. C'est quoi tes conseils ?
Être en accord avec soi-même, ça veut dire si tu es un bon vivant, ne va pas te fixer un objectif d'avoir le six-pack à l'année. Et ensuite râler parce que tu ne l'as pas. Ce que j'entends et je vois tous les jours. Si tu es un vrai sportif, et j'en connais qui n'ont pas fait de cheat depuis des années. Mon ancien prof de kickboxing, champion du monde, dernier McDo qu'il a fait, il avait peut-être 30 ans et là, il a 50. Adapté à qui tu es, ça veut dire si tu n'es pas capable de... Je te parle même pas de diète, juste de bien manger et de pas mal manger de temps en temps, ne te plains pas des résultats que tu ne peux pas avoir. C'est juste être en accord avec soi-même, ça fait peut-être 10 fois que je le dis, mais c'est la vérité.
Encore une fois, tout le monde n'est pas capable de vivre avec un body fat très bas. Alors, ce n'est pas pour se cacher derrière des choses non plus, hein, parce que je pense qu'il y a souvent un problème de volonté, mais je pense que ce n'est pas fait aussi pour toutes les morphologies que de vivre comme ça avec un low body fat.
Je vais t'expliquer. Les personnes qui ont un body fat bas à l'année, ce sont des personnes qui ont la génétique pour. Grossissent très très difficilement, mais aussi vont faire du muscle très très difficilement. C'est-à-dire que le corps est fait pour être sec. Et il y en a très très peu. Ce qu'il faut, c'est avoir un body fat où tu peux retrouver tes abdos en faisant attention 3-4 semaines. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, à l'année, tu es assez bien.
Il faut avoir le coussin de sécurité, mais pas trop.
Ouais, ça suffit. Tu sais que tu vas partir en vacances ou tu dois réduire ton poids pour une compète ou une échéance. Tu as besoin de 3-4 semaines sans serrer la ceinture. Je te dis juste faire un peu attention, ça suffit. Une femme qui est sèche, c'est contre nature. Il ne faut pas s'étonner derrière de ne pas avoir ses règles, d'être de mauvaise humeur, infertile, etc.
Et un homme qui est sec aussi, alors par définition, on a besoin de ce petit matelas là, qui rassure un peu. Là.
Moins que les femmes. Mais ceux qui sont secs à l'année, déjà ceux que vous voyez sur Instagram, moi je vois à la salle, hein, ils sont très connus, ils sont pas secs à l'année. Ils sont des corps de ouf. Ils vont bombarder de photos et de vidéos et ils vont les balancer petit à petit à l'année. Plus, voilà, l'utilisation de telle ou telle ou telle ou telle chose, ne pas se comparer.
Et puis l'évolution des stratégies. Vegan.
Puis prendre conscience aussi qu'on a un corps exceptionnel, le H. Là, on parle de s'optimiser, d'être beau gosse face au miroir, d'avoir plus de force, d'être plus endurant, mais... La longévité, je pense, c'est ça. C'est aussi prendre conscience qu'on utilise une machine qui est extraordinaire.
Si tu prends bien soin de ton corps, il te le rendra. Ça passe par ce qu'on a dit au début de vidéo, l'échauffement, des routines de renforcement articulaire. Par exemple, les spinaux qui sont hyper délaissés. Les renforcer de temps en temps avec des petits exercices de Superman par-ci, par-là, des décompressions lombaires. Là, tu assures ta longévité, je trouve.
Du travail de relevé de buste au banc à lombaire.
J'allais parler de ça, Pierrot, c'est marrant. On a reçu Guintas.
Ah oui.
Je sais pas si tu vois un prépa physique qui vient des pays de Letton, qui vient des pays de l'Est là. Froid, c'était. On n'a pas pu sortir l'épisode parce que il nous a enregistré dans un honneur où il y avait un mec qui faisait un soulevé de terre à côté et c'était pas possible, il est pas entendable. Et il nous avait parlé de cette planche lombaire et c'est vraiment un truc que j'ai pris dans ma routine, que je fais souvent. Tu peux l'expliquer, Pierre, peut-être?
En fait, il avait dit deux choses, parce que du coup, c'est l'école ex-soviétique. Il avait dit que ses maîtres...
Dangereux.
Non, bah, il fait un... je crois qu'il fait un épaulé jeté avec une kettle de 100 kilos.
Oui. C'est le buffle. C'est lui,
non.
Le buffle.
Non, non, mais c'est un monstre. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un monstre. Et donc, il disait les deux trucs qu'on lui avait enseignés, c'était pour jamais avoir mal au dos, tu fais tes extensions lombaires et tu fais tes inversions. Donc, lui, il se suspend à l'envers, tu vois. Et ses maîtres dans l'école lui avaient dit à l'époque, si tu fais ça, tu n'auras jamais mal au dos. Et tu sais, c'est les écoles d'haltérophilie. Hein. Donc, ils ont quand même des principes de mise en place de choses pour ne pas se péter au niveau lombaire. Parce que bon, une fois que tu t'es fait mal au dos, quand tu fais de l'haltéro,
oui.
T'es dans la merde.
L'haltéro, c'est vraiment le king, les maîtres pour tout ce qui est mouvement, prévention, etc. Bodybuilding, ça va être tout ce qui est chimie, nutrition, hormones et tout.
Oui, optimisation aussi de l'entraînement, de la nutrition.
L'haltéro, il faut s'inspirer d'eux.
Magnifique. Ouais, on n'a pas parlé de collagène, c'est... le H. On a parlé de supplémentation. Et tu vois, les gens, ils vont nous mettre en commentaire et... Et alors, collagène type 1, 2, type 3, chondroïtine, glucosamine, vous n'avez pas posé la question au H.
C'est mieux de ne pas en parler. On peut en parler, mais je trouve que c'est mieux de ne pas en parler parce qu'en fait, juste ce qu'on a dit, de faire la petite routine d'échauffement, de renfort articulaire, le déséquilibre chaîne postérieure, chaîne antérieure, parce qu'on fait plus de mouvements de poussée que de mouvements de tirage, renforcement du dos, comme tu as dit, avec voilà. Juste ça. Si vous mettez plus d'énergie sur ça, parce que ce qui est plus chiant que de prendre 30 euros de poudre, de gélules, de collagène, etc., vous assurez la longévité, prévention des blessures et même peut-être guérison si ce n'est pas trop grave. Vraiment. C'est 1000 fois au-dessus que tel ou tel collagène ou peptide.
100% d'accord.
Et on n'a pas parlé d'hydratation, qui est sûrement un gros pilier de récupération, de longévité.
Hydratation, oui. C'est plus la sous-hydratation qui pose problème. Déjà, au niveau des performances, sous-hydraté, tu réduis tes performances 4, 6 et 10% et tu mets en danger aussi tes articulations. Plus la peau, hein, tu vieillis plus vite, etc. Bon, hydratation, ce n'est pas juste de l'eau, c'est avec des électrolytes. C'est vrai que c'est indispensable. Et moi, il y a deux sujets dont je voulais parler. Je ne sais pas si vous avez du temps. C'est le dry needling et les ondes de choc.
Et juste, je suis désolé.
C'est mieux qu'on n'en parle pas, je crois, ouais, parce que en fait, si on fait de la chaîne postérieure, si on fait de la...
Justement, attends, juste avant de passer sur ces deux questions, tu sais, tu parlais d'équilibre au niveau de l'entraînement entre chaîne antérieure, chaîne postérieure. Est-ce que quelqu'un qui nous écoute, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il regarde son volume d'entraînement sur la semaine, par exemple en tirage horizontal et poussée horizontale, et de voir combien de séries il fait pour chaque mouvement, ça donne un ordre de grandeur, ce sera forcément imparfait.
C'est vrai, hein, tu mets ça sur papier, il faut théoriquement que ce soit 50-50. Sinon, en fait, par exemple, si tu as delto antérieur surdéveloppé, pec surdéveloppé, tu vas aller en avant, et ça va être le serpent qui se mord la queue. À chaque fois que tu vas en avant, et derrière, ça va lâcher.
Parce que sur les épisodes de muscu qu'on a fait, Haut du Corps, ils définissent souvent tu vois, deux schémas de poussée, deux schémas de tirage vertical, horizontal, trois schémas de membres inférieurs. Bon, je pense que c'est une garantie pour ne pas se tromper, d'être sûr de pousser, de tirer dans tous les sens. Ça te permet d'avoir un garde-fou. Hein.
Donc, les ondes de choc et le dry needling.
Alors pourquoi je voulais parler de ondes de choc et dry needling? Alors j'aimerais d'abord, on va commencer par le dry, que vous expliquiez facilement ce que c'est, les mécanismes, d'où vient la tension musculaire, etc., etc. Et ensuite, moi, je vais apporter ma touche à la fin.
Le dry needling, ça vient des trigger points. C'est Travell and Simons qui a décrit toute une cartographie de douleurs musculaires qui viennent irradier. Tu as une rage de dents, tu as une douleur qui irradie, ça se parle bien aux gens. Tu as des tensions musculaires qui pourraient donner une irradiation à distance. Et donc, ces points gâchettes, ces trigger points, on les travaillait auparavant à la main. Tu vois, on venait avec des points de pression, venir les relâcher.
On les travaille toujours à la main.
Oui, oui, on les travaille toujours à la main. Moi, personnellement, je ne fais pas de dry needling, je ne suis pas formé pour. Mais en dry needling, sur la technique, en fait, c'est poncture sèche, dry needling. Et donc, via cette aiguille qu'on vient passer dans le fil musculaire, dans la zone de tension musculaire, on vient chercher à twitch, c'est-à-dire une activation des fascicules musculaires. Et on vient relâcher et forcer un relâchement musculaire pour détendre la zone locale et aussi traiter potentiellement une douleur qui irradie de cette zone musculaire. Donc, ça va être intéressant sur un relâchement musculaire et c'est une technique qui est assez puissante là-dessus. Donc, pour les sportifs, c'est assez rapide, efficace, puissant, mais ça nécessite aussi formation et des règles d'hygiène. Parce qu'on traverse la barrière de la peau quand même, donc il faut faire attention. Et il y a des petits nerfs, il ne faut pas toucher. On ne peut pas faire ça partout parce qu'il y a quand même des vaisseaux sanguins. Donc au niveau cervical, ça semble être quand même plus délicat. Et par exemple, sur tous les scalens, scom, etc., toute la chaîne antérieure, vous ne pourrez pas faire de dry needling. Il faut faire attention à ne pas toucher le plexus brachial quand vous en faites. Parce qu'on peut perforer un nerf en faisant du dry. Hein.
Moi, je vais devoir y aller, le H. Moi, je me suis régalé avec toi. Ce que je dirais sur le dry, c'est que c'est un outil. Je pense qu'on a tous un bagage à outils et il suffit d'utiliser le bon. Mais ce dry needling peut faire passer une étape au niveau de la douleur, comme un trigger point, comme un étirement, comme un lever de tension. Et puis après, ça va être la reprogrammation à travers le mouvement, tout ce qu'on a dit, reprendre confiance en mobilité, en force, en échauffement, toute cette ode au mouvement qu'on a abordé. H, je me suis régalé, c'était trop bien, t'es à 1000%. Et Pierre aussi, je vous laisse finir tranquillement, merci beaucoup.
Ouais, on va finir sur ça. Salut Vincent, merci.
Allez, salut, à la prochaine.
Ciao Vince. Ouais, du coup, voilà pour le dry. Mais tu vois, c'est sûr que c'est un outil. Il faut passer un cap au patient, ça va être intéressant. Mais on est encore sur une thérapeutique qui est... C'est un accessoire, tu vois. Ça ne peut pas être que ça. Mais c'est ultra efficace, oui.
Je vais apporter ma touche, si tu le permets.
Oui, dis-moi.
Alors, ça, c'est l'expérience personnelle. J'ai eu beaucoup de soucis et genre j'avais des trigger points, épaules, coudes. Juste je faisais ça et peut-être là encore on va voir, mais ça bouge tout seul, tu vois. Énormément. Donc je faisais 2 dry par semaine plus 3 kinés en salle et amplitude passive par semaine pendant 1 an et demi. Truc de ouf. Et un jour j'en avais marre, je me suis dit putain c'est pas possible. En fait, le dry me soulage sur le moment et 1 ou 2 jours, les tensions reviennent. Pourquoi? Alors, la tension est créée par une libération excessive d'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur de contraction musculaire. Donc, c'est pour ça que les sarcomères se resserrent. Ça crée un cercle vicieux. Après, en fait, il faut, une fois que tu fais ton dry needling, si tu ne traites pas la source, c'est-à-dire la tension musculaire, ça ne marchera pas et ça reviendra toujours. C'est pour ça que j'aime bien ce podcast. Chacun apporte son domaine et les petits détails qui vont faire la différence. Par exemple, sur le sujet des stéroïdes, un patient sous stéroïdes ou non, là, c'est la même chose. Avec mon expérience, et j'ai fait ça avec mon kiné qui m'a suivi 1 an et demi, Kylian Bonnet, que je salue, je remercie. Je lui dis, frérot, je vais trouver la solution, et je l'ai trouvée. Magnésium biglycinate avant de dormir, obligé, ça détend un petit peu, mais ce n'est pas puissant. Il y a un médoc en France qui se vend sans ordonnance, Atépaden. C'est de l'ATP.
Okay.
En plus, il est là. Je l'ai toujours sur moi, au cas où. Un tube bleu. Atépaden. Écoute, c'est un décontractant musculaire, en fait. Pas de la famille des médicaments puissants, parce que ça se vend sans ordonnance.
Mais c'est pas un Murel ou un Lumirelax ou ce genre de choses.
Juste ça suffit. En fait, si tu arrives à traiter la tension musculaire, là, ton dry needling va être efficace et tu n'en auras plus besoin. Donc, si j'ai un conseil à toi ou les kinéostéos qui font du dry, ou même... vous faites ça à la main. Un des intérêts du dry, c'est que vous, à force de répétition pendant des années, vous ne fassiez pas de tendinite aussi. Voilà. La manipulation pour vous, c'est manipulation pour vous du matin au matin. Ça flingue vos articulations. De traiter la tension musculaire. Ça change tout. Si un jour, tu as un patient qui revient avec des trigger points tout le temps, essaye ça.
Ok. Mais, tu vois, ça, c'est intéressant pour apporter des plus. Tu vois, c'est toujours bien d'avoir plein de solutions. Mais... ce qu'il faut aussi voir, tu vois, ça c'est La panoplie de techniques à utiliser pour un patient qui a des douleurs, c'est toujours se dire, OK, il y a des douleurs musculaires, mais c'est des muscles qui entourent et qui sont périphériques d'une articulation. Et est-ce qu'il ne faudrait pas mieux utiliser, si on parle que des choses passives à utiliser sur un patient, tu vois, t'as un ensemble, une panoplie de techniques, donc tu as des techniques articulaires de remobilisation, de travail de glissement qui peuvent être antalgiques, techniques articulaires spécifiques, mais tu as aussi des techniques musculaires globales, périphériques, et tu as des techniques aussi articulaires à faire. Si on parle par exemple de l'épaule et d'un trigger sur l'épaule, tu as aussi des techniques articulaires à faire sur les cervicales. À pondérer et douce et sans faire le gros bourrin, mais tu vois, pour relâcher aussi le système nerveux, tu vas avoir aussi des effets à distance en travaillant sur les cervicales avec des effets positifs sur les muscles autour de l'épaule.
Bien sûr.
Voilà. Donc c'est toujours pareil. Tout est contextuel. C'est comme quand je te pose des questions sur la nutrition, malheureusement.
C'est contextuel et c'est vraiment quelque chose qui évolue. On en apprend énormément.
C'est pour ça qu'il faut travailler.
Il faut être curieux, parce que même le dry, il n'y a pas longtemps, il y a eu une étude qui est sortie qui t'a montré quel était le milieu du corps au niveau de l'injection de l'aiguille. C'était un milieu hyper acide. Donc ça joue aussi sur les tensions musculaires. Et qu'est-ce que tu penses des ondes de choc ?
Alors, les ondes de choc, tu vois, ça va être. C'est intéressant, tu vois, sur des tendinopathies récalcitrantes. Pour faire passer pareil un cap sur la rééducation. C'est pareil, c'est toujours, j'ai l'impression de faire le politicien, tu vois. Mais c'est un outil, ça ne remplacera pas la mise en charge, mais ça va être un outil un peu antalgique, parce que a priori, ça aura un effet de. Tu vois, ça fait des micro-perforations dans le tendon, mais ça pourrait venir léser. On a parlé tout à l'heure, tu sais, de tout le système de revascularisation du tendon, parce que le tendon n'est pas vraiment vascularisé. C'est quand il est abîmé, il y a toute une perforation qui se fait où des vaisseaux sanguins vont venir perforer ce tendon, mais aussi avec des petits rameaux nerveux à l'intérieur de ce tendon qui vont le sensibiliser. Donc, l'onde de choc va désensibiliser le tendon. A priori, c'est ce que ça pourrait faire. Là où ça va être intéressant sur les ondes de choc, c'est que lorsqu'il y a une calcification, ça serait assez efficace lorsqu'il y a une présence de calcification, à pondérer tout de même, parce qu'il y a des calcifications qui sont asymptomatiques. Donc, tu sais, des fois, quand on fait une imagerie, on dit « Ah, il y a une calcification ». C'est sûrement ça qui vous fait mal. Et en fait, mettons, si le radiologue il s'est trompé d'épaule, tu as des calcifications asymptomatiques. Donc, c'est possible que ce ne soit pas ça qui te fasse vraiment mal. Onde de choc, outil intéressant lorsqu'il y a calcification et ou pour passer le cap d'une tendinopathie récalcitrante. De toute façon, si c'est bien utilisé, il n'y a pas de raison que ce soit que c'est des effets trop délétères. Mais derrière, ça ne remplacera pas de la remise en charge, du travail isométrique sur le système musculaire, du travail, on a parlé de HSR, tu Heavy Slow Resistance Training. Le tempo, c'est 3 secondes excentriques. On ne fait pas de pause en bas et 3 secondes en concentrique. Et après, repasser sur de l'excentrique et après sur de la plio. Voilà.
Qu'est-ce qui crée une calcification ? Qu'est-ce qu'une calcification ? Juste pour ceux qui nous écoutent.
La calcification, ça va être une... Donc, tu as des fibroblastes qui sont les cellules qui ont un potentiel de différenciation qui est multiple. Et en fonction de la contrainte qui va leur être imposée, elles vont plutôt se transformer en ténocytes, en cellules tendineuses, ou en des cellules cartilagineuses, quand c'est plus de l'impaction. Donc typiquement, quand tu as des zones qui sont plus soumises à du frottement ou de l'impaction, tu vas avoir une calcification du tendon. Et au contraire, si c'est juste de la traction, c'est pourquoi le tendon est fait.
Augmentation de dépôt de calcium.
Il me semble, oui. Je n'ai pas forcément le détail spécifique là-dessus, mais en tout cas, il y a un changement de type cellulaire parce qu'il y a des contraintes qui ne sont pas celles auxquelles le tissu est fait pour. Donc, il se modifie en réponse à ces contraintes. Si ton tendon il est écrasé contre une surface, tu vois, par exemple au niveau du tendon d'Achille, s'il vient avoir trop de contraintes en compression, il va, comme un cartilage, il va se transformer, il va y avoir une calcification de l'anthèse du tendon, donc l'insertion du tendon à ce niveau-là. Donc voilà, c'est les contraintes mécaniques. Oui. Et surtout, tu vas avoir des problématiques de calcification comme ça, ça se voit pas mal chez les personnes qui vont avoir plus de 45 ans et tu as pas mal de douleurs calciques aussi chez des femmes, tu vois. Plus de 45 ans. Et dès qu'il va y avoir aussi des problèmes hormonaux associés, hein, dès qu'elles sont en périménopause, les dames, tu vas retrouver des modifications de la structure du tendon parce qu'il y a une baisse aussi de la qualité de l'ostrogène. En tout cas, je suppose, tu sais, quand on aura tout compris sur le fonctionnement du corps...
Jamais, ça n'arrivera jamais.
Non, voilà, mais bon, c'est des hypothèses, c'est des pistes. Est-ce que selon un traité, la question c'est, est-ce que c'est vraiment la calcification qui crée la douleur ? Est-ce qu'il y aura plus de douleur si la calcification part ? Parce qu'à tout moment, la calcification était déjà là avant qu'il y ait de la douleur. Donc, c'est toujours aussi des réflexions entre... Il n'y a pas forcément de corrélation directe entre anomalie à l'imagerie et douleur. Même si, forcément, quand il y a une grosse anomalie à l'imagerie, ça prévaut plus pour... Oui, c'est ça. Je regarde un peu les questions que tu nous avais posées pour qu'on... Parce que tu nous avais fait... une listing de pas mal de choses.
Ouais, je vous avais proposé un petit listing. Pour moi, on a...
Ouais, sur la récupération et le sommeil, on l'a évoqué. T'aurais 4-5 clés pour les auditeurs là, sur leur l'amélioration de leur sommeil, puisqu'on est tombé d'accord. Enfin, on est tombé d'accord. Je pense qu'il n'y a même plus de débat à avoir là-dessus. C'est le pilier numéro 1 de la récupération. Peut-être un peu plus qu'avec la nutrition, mais bon, le but, c'est pas de faire des compétitions entre ces différents secteurs. C'est un pilier essentiel de la récupération. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place au niveau de son sommeil, les 3-5 tips là, que tu aurais?
Il faut comprendre les deux neurotransmetteurs principaux. La dopamine, en gros, c'est l'excitation. Et la sérotonine, c'est tout ce qui amène au calme. Donc, premier truc, c'est à l'approche du sommeil, essayer de ne pas faire monter ta dopamine. Alors, ça monte avec les écrans, ça monte la caféine aussi, les stimulants, ça monte avec le stress, même l'exercice, ça fait monter la dopamine. Donc voilà, tu sais que tu dois te lever à 7 heures, essaye de viser de t'endormir vers 23, mais en gros, tu vas t'endormir vers minuit. Donc, tu essaies de calmer ta dopamine à partir de 20 heures. Déjà, tu joues sur ça. Ensuite, tu essaies de faire monter ta sérotonine. La sérotonine, tu peux la monter avec de la nutrition, c'est-à-dire en mangeant bien, tu as un petit peu de chocolat noir, même juste un petit peu de glucides avant de dormir, une cuillère de miel, le pic glycémique qui chute va jouer un petit peu sur ta capacité à t'endormir et tout, c'est top. Il faut comprendre que le sommeil, c'est deux phases. Endormissement, tu as la première phase où tu t'endors, et tu as la phase où, je ne sais pas comment ça s'appelle, tu es, c'est ta phase où tu es en train de dormir. Parce que c'est facile de s'endormir, pour certaines personnes, mais par contre, elles vont se réveiller 1, 2, 3, 4 fois la nuit. Sommeil entrecoupé. Ton sommeil ne vaut rien, tu n'as aucune récupération, sécrétion d'hormones de croissance. C'est là que la mélatonine que les gens prennent, c'est pas top. Parce qu'en gros, tu vas avoir la mélatonine exogène, plus la mélatonine que ton corps va sécréter lui-même. Ça va créer un décalage. C'est pour ça que certaines personnes se réveillent groggy. Et en gros, tu vas entrer dans un engrenage où tu es fatigué la journée, tu vas faire une sieste, et la sieste va faire en sorte que le soir, tu n'es pas fatigué, donc tu prends encore ta mélatonine, etc. etc. Non. Pas lutter contre la nature. Il y a des compléments basiques pour jouer sur la sérotonine, le système nerveux, le magnésium biglycinate, qui est top, le 5-HTP, qui est aussi top, le GABA, il faut faire attention, la taurine, c'est très bien. Question de timing. Ne prends pas ça juste avant de dormir. Une heure avant, parce que tu as l'assimilation, la digestion, la conversion qui joue. L'importance mise, par exemple, sur la créatine, le pré-workout, le collagène, pour moi, doit être plus focus sur ta stack de pré-sommeil. Le magnésium biglycinate doit être indispensable. Ne pas manger un repas lourd doit être indispensable. Parce que qui dit repas lourd dit... thermogénèse de digestion. Tu vas manger un repas lourd, thermogénèse augmente, t'as chaud. Ça met un petit peu de temps à redescendre. Pareil pour ta glycémie. Si tu manges un repas riche en glucides, là je parle de charge glycémique, je ne parle pas d'indice, parce que le miel, l'indice glycémique, il est élevé, mais tu prends une cuillère, tu ne prends pas une assiette. Ta glycémie va rester haute le temps qu'elle redescende. Au lieu qu'elle redescende rapidement, quand tu t'es mis au lit, elle va descendre à 2-3 heures du matin. Sauf qu'en fait, pour que l'hormone de croissance monte, puisque l'hormone de croissance est une hormone antagoniste à l'insuline, ce serait idéal qu'elle commence à monter un petit peu avant. Donc en gros, tout va se chevaucher, l'hormone de croissance ne va pas faire son travail, l'insuline va être présente trop longtemps dans le corps, neurotransmetteurs vont être déséquilibrés, etc. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça hygiène de vie. Hygiène de vie.
C'est... Parfait.
Tu prends des choses toi avant de dormir?
Mais il revient, Vincent. Avant de dormir,
J'en veux encore.
Je vais pas tarder, les gars, je dois faire ma valise, mais on termine. Ouais.
Et avant de dormir, je prends magnésium, tu vois, magnésium, zinc, mais pas tout le temps, pas tous les jours. Magnésium, zinc, comme c'est pendant le repas, tu vois, je prends mes oméga 3 en même temps que le repas. Voilà, c'est mon petit. Et je prends aussi de l'huile de bourrache, mais ça, c'est pour ma peau. Chacun ses petits problèmes. Pas que, mais voilà, je me gère.
Pour tes membranes, tes barrières.
Mais oui, faites une recherche. J'ai fait une vidéo qui va sortir bientôt, axée sur le sommeil, hormones de croissance, les neurotransmetteurs, tryptophane, sérotonine, etc. C'est une question de timing, de conversion et de chevauchement entre des hormones. Comme j'ai dit, c'est une hygiène de vie.
Parfait.
Est-ce que moi, je peux poser une petite question? Cortisol, insuline, tu les places sous, comme antagonistes. Est-ce que tu peux juste refaire un petit topo sur ça?
Oui, le cortisol, c'est une hormone catabolique. Catabolique, ça veut dire dégradée. Après, anabolique, ça veut dire construire. Catabolique, ça veut dire dégradée. Ça ne veut pas dire que c'est une hormone qu'il faut bannir. Parce que tu en as besoin. Elle est sécrétée naturellement dans les premières heures de réveil. C'est ce qui te réveille. C'est ce qui te donne l'énergie quand tu te réveilles. C'est une hormone qui va libérer des acides gras pour les utiliser sous forme d'énergie, mais qui peut aussi taper dans le muscle. C'est pour ça qu'on parle de catabolisme musculaire. Tu vas faire une séance de muscu à jeun et ni donner d'acide aminé, ni donner de glucides pendant l'entraînement. Le cortisol, qui est sécrété naturellement par un mécanisme naturel, va libérer les acides gras pour que ton corps utilise comme énergie, puisse performer, mais voici taper dans le muscle. Le problème du cortisol, c'est que s'il est élevé à des pics chroniques fréquents sur la journée, là tu as un problème. Alors c'est assez rare, il faut investiguer avec des prises de sang poussées, mais le stress seul peut faire monter le cortisol énormément. Et là, le lien avec l'insuline que tu m'as posé la question, c'est que l'insuline, quand elle est sécrétée, ça bloque le cortisol. Donc c'est pour ça qu'il faut le petit jus de fruits, le petit pic d'insuline pendant l'entraînement, tu es sûr de bloquer, entre guillemets, le catabolisme musculaire. Pas de lipolyse.
Oui, parce que le problème avec l'insuline, c'est on parle souvent de l'apport en glucides, d'aliments sucrés, mais... la gestion de notre sommeil, la gestion de notre stress va aussi impacter en fait notre niveau de glycémie dans la journée.
Le stress,
c'est un truc de fou.
Le stress, c'est un truc de fou. Pour moi, c'est la base des maladies.
Hein. Ouais.
Même des blessures, je suis sûr que vous avez déjà eu des patients qui, sans effort, sans impact, juste avec le stress, ont eu une blessure.
Mais tous les jours. Ah bah ouais. Tous les jours. Non, mais je te jure, non, mais par contre, c'est vrai, hein. C'est tous les jours. Parce que moi, du coup, je fais maintenant que de l'ostéo. Donc, je vois des gens dans l'aigu. Et alors, c'est pas une blessure au sens où ils se déchirent un muscle, tu vois, mais où ils se bloquent le dos alors qu'ils ont rien fait. C'est c'est pour prendre l'exemple de ce matin. J'ai une femme qui s'est bloquée cervicale en se séchant les cheveux, tu vois. Je lui ai dit, moi, c'était pas physique le truc, tu vois. C'est le truc que tu fais tous les jours. C'est pas ça le problème, c'est juste un petit coup de froid sur tes cervicales et tu t'es bloqué les cervicales. C'est juste que t'es fatigué, t'es stressé, il y a des contrariétés personnelles.
Il y a l'URSSAF qui est arrivé et clac.
Oui, non, mais c'est multifactoriel, tu vois. Après, le but, c'est pas de savoir, de rentrer, de pas être indiscret avec les patients et de connaître absolument quelles sont leurs problématiques. Mais c'est sûr que de savoir que en ce moment c'est compliqué pour eux, ça explique au moins et ça justifie au moins que ça arrive comme ça, parce que les gens ils te disent mais comment ça se fait, mais c'est juste qu'est-ce qu'il en est du sommeil en ce moment, qu'est-ce qu'il en est de votre vie perso en ce moment, qu'est-ce qu'il en est de votre vie pro en ce moment, et souvent t'as déjà une réponse à la question là-dessus, tu vois. j'ai mon fils qui est malade, j'ai mon mari, ça va pas, j'en sais rien, ma mère, mon père, enfin, le travail du harcèlement, à un moment donné, j'ai pas pris de vacances depuis 6 mois. Eh oui.
Mais ça reprend ce que tu dis, le H, hein, c'est bien que tu donnes ce message. Qui on est? Vraiment se poser vraiment les questions, d'essayer de se comprendre. Franchement, plus tu es à l'aise dans ton corps, dans ta tête, plus tu es aussi à l'aise avec ton environnement. Et voilà, il y a quelque chose de fort de d'abord aller chercher chez soi pour après s'organiser avec son environnement.
C'est pas évident parce que
pas évident,
ouais. Travail, là, se poser la question de qui on est, ça veut dire au final tu choisis. Choisir, c'est renoncer. Je ne suis pas potentiellement un athlète de haut niveau, bah, je renonce à ses rêves, cette carrière. C'est un exemple basique, mais bon, c'est très important.
Mais, en fait, je crois que tu ne sais pas que tu t'adresses à Vincent quand tu dis ça, parce que Vincent, en fait, il veut le marathon en moins de 3 heures et il veut prendre de la masse en même temps. Tu vois, donc Vincent, en fait, je l'ai déjà dit, à un moment donné, il faut choisir. Vincent, il ne veut pas choisir. Oui. Mais sauf que tu peux pas tout développer en même temps.
Non, mais c'est intéressant et je l'ai bien compris.
On est tous les mêmes.
Je dis ça parce que mon entourage et moi, on l'a vu, on le voit tous les jours. Ce n'est pas possible.
Non, mais attendez, et les gars, moi, je suis moyen de partout. Voilà. Je suis performant dans la moyenne haute. Donc j'ai une marge de manœuvre, je peux progresser de partout, c'est ça. Je peux jamais être insatisfait de mes progressions parce que je suis moyen de partout. Je suis pas Teddy Riner, multiple champion olympique ou vraiment la performance. Il a poussé le curseur. Je pense qu'on peut être moyen de partout et essayer de progresser, même
oui,
si là j'ai
une
marathon.
C'est pas une ode à la médiocrité non plus, hein, parce que bon.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, il faut. On est quand même des hommes, on va pas dire lambda, tu vois, mais voilà, on fait ce qu'on peut, on n'est pas là, c'est pas la performance poussée à l'extrême.
Vous vous améliorez tous les jours dans votre domaine, kiné, ostéo, là on parle pas de sport, tu t'améliores.
Du lundi au lundi.
Lundi au lundi.
Franchement, le H, on s'est amélioré ou pas?
Toi, tu n'étais pas présent au premier.
Ouais, mais je suis quand même dans l'équipe.
Donc il saura à la prochaine oui. Si tu étais meilleur.
Ah ouais, putain.
Ouais, t'es toujours sur la sellette, Vincent.
C'est moi, il faut que je m'améliore sur la partie kiné, ostéo, biomécanique, parce que c'est indispensable.
Ouais.
J'adore ça.
Ouais, c'est super intéressant. Il y a tout le système FRC, tu vois, pour faire un lien là-dessus, là, tout le système FRC de André Ospina, moi j'aimerais bien former là-dessus, tu sais. C'est toujours pareil, en fait. En fait, il y a des milliards de formations. Et tu me demandes, vous en pensez quoi de running? Ben, il faut se former. Vous en pensez quoi de l'ostéo? Il faut se former, sauf que l'ostéo, ça met 5 ans pour se former.
C'est facile, hein, en plus, l'ostéo.
Ouais, bon, après, ça se fait quand même. En pratiquant en même temps, en tant que kiné, tu vois, ça va. Puis après, il y a le McKenzie, t'en penses quoi? Puis il faut se former. Et puis, les névragies cervico-brachiales, t'en penses quoi? Puis il faut se former. Les problèmes de nerfs, les problèmes vasculaires. Il y a tellement de... Maintenant, je pense qu'il y a... Il y a plein de spécificités sur l'exercice et de spécialisation. Et si tu veux être bon, bah, il faut aller chercher. On n'est plus très global et très superficiel comme peut-être c'était le cas il y a 20-25 ans, tu vois, où tu savais beaucoup de choses en sachant très peu de données finalement, puisque c'était pas poussé. Maintenant, il y a quand même beaucoup de formations très poussées sur plein de domaines très pointus. Hein.
Après, il faut s'inspirer. Il y a beaucoup de concepts. Je pense que FRC, comme dit Pierrot, moi, je l'ai fait. Et c'est vraiment un truc qui peut te donner des billes sur l'échauffement articulaire, tu vois, le travail de mobilité, de force dans l'amplitude articulaire. C'est vraiment un super truc, le H. Mais je défends le fait qu'on ait notre propre concept. Et donc, ma vision, la tienne, Pierrot, la tienne, le H... Il y a que nous qui sommes capables de le maîtriser et de le partager. Et donc, on s'inspire, comme là, aujourd'hui, on a participé à un moment incroyable où on s'est aussi impacté tous les trois. Mais on est notre propre concept. Et donc, voilà. Bon, j'ai pas de fin de phrase, mais...
Non, non. Vraiment, l'objectif de ce podcast, pour moi, c'était de dire, de montrer aux gens, pas n'importe qui, mais genre les kinés, les ostéos, les coachs, il faut travailler ensemble. Alors, les médecins, voilà. Souvent, quand j'envoie des élèves, je leur dis, demande à ton médecin que ton coach a dit, s'il vous plaît, je soupçonne telle ou telle chose, mais c'est vous le boss, c'est vous le meilleur, le plus intelligent, le plus fort, analysez peut-être tel ou tel marqueur de prise de sang, ça passe pas. À les médecins, ça passe pas. Vous, ça passe mieux, il faut qu'on travaille en synergie.
Il y a un gros rapport de hiérarchie entre les enfin, il y a un problème, pas de caste, tu vois, un peu, mais entre le monde médical et le monde paramédical. Et je pense que le kiné, tu vois, on partage le même quotidien que les coachs parce qu'on est au contact des gens, on les voit régulièrement, on est confronté à des échecs aussi. Parce que comme on les voit toutes les semaines, on voit quand ça avance pas et que c'est la galère. Et souvent, c'est vrai que le monde médical est en décalage, faut le dire, et en décalage avec les avancées que se font au niveau, tu vois, de la kinésithérapie, de l'entraînement physique. Je trouve ça dommage. C'est juste pour faire, par exemple, un comparatif, il y a Blaise Dubois qui était passé à Montpellier. Conférence 10 euros. Le top 1 francophone sur la course à pied. Et sur la pathologie de course à pied qui vient à Montpellier, c'est 10 euros l'inscription. C'est facile, c'est accessible. Il n'y a pas de problème, tu vois. C'était à 20h, donc tout le monde a fait 20h30. Tout le monde a fini ses consultations. C'est bon, tu peux finir un peu plus tôt si tu finis d'habitude à 21h, mettons. Dans la salle, il n'y avait que des kinés. Il n'y avait que des kinés. Tu vois, des kinés, il y avait deux médecins, aucun chirurgien. Et tu vois, tu as top 1 francophone, donc ça, tu vois, c'est un Québécois. Qui est président de la clinique du coureur et fondateur de la clinique du coureur. Et il vient pour présenter une conférence sur sur-investigation, sur-médicalisation et sur-traitement chez les patients. Tu vois ?
Trop bien.
Et oui, trop intéressant, tu vois, en disant que…
Écoutez, il est passé sur 1000%, hein, c'est très, très fort.
Ah, je vais... Non, mais c'est top.
Toutes les pathologies liées à la course à pied, quantification du stress mécanique. Trop
non, mais en fait, c'est un top francophone, mais en fait, c'est un top monde. Et c'est juste que, tu vois cet écart. Et en fait, il l'a souligné, il a dit, mais quand même, c'est fou de voir que là, il y a une conférence pour se former. Moi, je viens, mais sans... C'était pas présomptueux de sa part, mais dire, mais quand même, c'est bizarre qu'il y ait si peu de monde il y ait si peu de gens du monde médical, tu vois, alors que... Enfin, c'est connu. J'ai encore très peu de gens qui viennent à mes formations sur la course à pied, alors que c'est la ref dans le monde francophone. Donc, soit les gens savent, soit ils ne se forment pas. Mais bon, là, le sous-entendu, c'était que les gens ne se formaient pas.
Généralement, les kinéostéos sont beaucoup plus sportifs, je trouve.
Et oui, mais après, c'est plus une histoire. C'est même pas une histoire de pratiquer, tu vois. C'est une histoire de formation, d'information, de mise à jour des connaissances, de réflexion autour de traitement. Et d'évaluation des pratiques professionnelles. Et donc, il lançait une pierre dans la mare en disant qu'en fait, dans le monde de la kinésithérapie et de l'ostéopathie, on se tirait beaucoup dessus sur les pratiques EBP, tu sais. Qu'est-ce qui est evidence-based? OK. Est-ce que le dry needling, c'est evidence-based? Est-ce que les ondes de choc, c'est evidence-based? OK. Le 10x10 en muscu, ça fonctionne ou pas? Alors, l'isométrique pour les tendinopathies, ça fonctionne ou pas? C'est tous ces débats de ouf. Et minisectomie. Il disait, les minisectomies, alors ça fonctionne ou pas? Est-ce qu'il y a des versus placebo sur les minisectomies? Est-ce qu'il y a des versus placebo qui ont été faits sur les opérations de coiffe? Qu'est-ce qu'il en est des opérations de croisée antérieure, réellement? Est-ce que ça a vraiment une utilité, certaine? Des sujets trop peu remis en question et qui méritent de se poser la question quand même. Quels sont les niveaux de preuve de ce type de chirurgie? Et qui ont des niveaux de preuve qui sont pas ouf.
On voit qu'il y a aussi des modes, hein, même dans les chirurgies, dans les traitements médicaux. Peut-être que ce que tu veux dire par là, Pierre, c'est qu'il y a un certain confort de la sphère médicale. Mais encore une fois, il y a de très très bons médecins, de très très bons kinés.
Bien sûr.
Il y en a des moins bons, il y en a des de partout. En fait, il y a des bons plombiers, il y a des très mauvais plombier.
Il y a des chirurgiens virtuoses qui vous font des interventions qui sauvent la vie des gens, hein, tous les jours.
Mais ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent, c'est chercher. Vous n'êtes pas emprisonné avec vos praticiens, que ce soit des coachs, des médecins, des kinés. Si vous n'êtes pas satisfait, allez voir ailleurs et trouvez la personne qui est à l'écoute, qui a un bon point d'appui pour vous diriger vers vos objectifs. Pierrot, il y a eu quand même quoi qu'il arrive, de l'empirisme dans l'évolution de nos soins, de notre médecine, ça fait partie intrinsèque et ça l'est encore. Voilà, même si le BP nous amène vraiment une recherche de réflexion, de preuves scientifiques, il y a l'autre BP, c'est l'expérience based practice qu'on expérimente tous autour. C'est vraiment, voilà, on est des thérapeutes accomplis parce que on a 10 ans derrière nous, voire plus, et il y a des choses
flair, hein.
Voilà, il y a du feeling aussi. Hein.
Pour avoir travaillé avec des chirurgiens, je peux te dire, je passais 3 quarts d'heure à faire des bilans, et en fait, le gars avait compris, le chirurgien a compris en 5 minutes que, en fait, ce qu'il fallait faire. Tu vois, moi, je savais pas faire ce que fait le chirurgien, mais j'avais compris. Je me suis dit, ok, bon, là, vaut mieux faire ça que ça. J'avais, mais tu vois, te dire que les, c'est des profils quand même.
L'expérience. Ouais.
Non. Cerveau, plus que tout. Puis il y a des gros cerveaux, hein, quand même, aussi. C'est vrai, hein.
Déjà autour de la table, là, c'est monstrueux, là.
C'est parce qu'il y a le H qui est arrivé avec tout son hormono, il est trop fort.
Pas du tout, je vais me faire charrier, vous allez voir dans les commentaires.
C'est vrai.
Bah, pourquoi? Toujours, tu fais 2-3 heures de vidéo, t'expliques des trucs. Il y a un truc qui t'est pas clair ou n'importe quoi, t'es nul, tu connais rien.
Du contenu gratuit, il faut quand même. Faut quand même que vous ayez un petit peu d'indulgence, les gars. Et puis le niveau d'information était quand même très bon, j'ai trouvé, pour être honnête. On vous a renvoyé vers des podcasts avec des spécialistes. Je vous laisse écouter le podcast avec Valentin Copin sur les tendinopathies et avec Jean-Claude Guimberto qui a passé sa vie à regarder le fascia. Mmh. Il a passé sa vie à faire ça.
C'est le Cristiano Ronaldo du fascia.
Oui, c'est
donc
le Messi.
Là, il a 80 ans, il a une moustache exceptionnelle.
Oui.
Et en fait, il a un recul. Tu sais, on lui posait des questions, il disait... Moi, je peux vous raconter que ce que j'ai observé.
Exactement.
C'est magnifique, quand même.
Ça, c'est à quelqu'un qui sait de quoi il parle.
Ah ouais.
Tu vas voir un garagiste, tu lui dis quelles sont les voitures fiables. Si c'est un bon garagiste, il va te dire, je peux te dire uniquement celles qui ne sont pas fiables, c'est-à-dire celles qui sont retournées dans mon atelier.
Ah ouais. Non, mais c'est vrai, d'avoir du recul comme ça, tu vois, c'est aussi signe de sagesse sur sa pratique. On pourrait aussi... Tu as parlé des cellules souches. Je pense que c'est un épisode qui a été sous-estimé, qu'on a tourné au sommet de l'hypersanté l'année dernière avec Christian Drapeau, spécialiste des cellules souches. Je peux te dire que là, c'était...
Ouais, je vais regarder. Je connais rien sur les cellules souches.
Bah, nous non plus. Et franchement, on a pris une masterclass d'1h30. Et il y a plein de choses comme ça. Il y a Jean-Benoît Morin, il y a Anthony Berthoud, il y en a plein.
Il y a Sean.
Docteur Mouton, il y a Sean. Sean Seale sur l'entraînement à l'endurance. Tu sais, on a fait tout le spectre de la zone 2, fractionné, travail d'endurance totale, travail au RPE. Ouais, c'est trop
fort. Il y a Anthony Berthoud avec la complémentation alimentaire et qui a écrit, je pense, le plus gros livre sur la nutrition et micronutrition avec 10 000 références biblio là-dessus. Donc voilà. Juste pour finir sur la... j'ai retrouvé l'étude là, c'est une méta-analyse Umbrella comme un parapluie, Umbrella Review, évidence niveau 1. Je vous fais le résumé, chirurgie meilleure éprouvée, donc ça veut dire avec groupe contrôle, parce que c'est ça la science, hein. Pour canal carpien et prothèse totale de genou, aucun bénéfice versus pas de chirurgie. C'est-à-dire, ils ouvrent, ils font rien, ils referment. Il y a forcément des cas particuliers avec des instabilités importantes, par exemple, parce que là, je vais vous citer le LCA qui n'a pas montré forcément de gros bénéfices sur la douleur, en tout cas. Mais quand il y a des grosses instabilités, ça paraît être intéressant. Mais aucun bénéfice versus contrôle sur la minisectomie, réparation de coiffe et l'acromioplastie. C'est énorme. Mais pareil, je pense qu'il faut profiler les patients parce que je pense qu'il y en a certains qui ce sont des super répondeurs. Mais ça pose des questions quand même au niveau de la science. On a une méta-analyse de méta-analyse et qui montre quand même qu'il manque des données et pas d'études randomisées contrôlées sur la réparation méniscale. Je pense qu'il faut que chacun fasse son taf. Hein. Voilà. Et effectivement, il faut que tout le monde travaille ensemble, il faut qu'on travaille avec les coachs, il faut que les coachs travaillent avec nous, il faut pas qu'on hésite à communiquer ensemble. Moi, je fais les patients me demandent, je fais des petits mails aux coachs quand... pour leur faire un petit compte-rendu de ce qui a été fait pendant la séance, que j'ai vu.
Magnifique.
Comme ça, si ça les aide, tant mieux. Si ça les aide pas, tant pis. Mais bon, au moins, le travail est fait. Pareil, prenez soin de vous. Faites-vous accompagner quand vous avez des problématiques. N'hésitez pas à aller voir votre médecin traitant.
Soyez curieux, soyez pas gourmand.
Oui, voilà, soyez gourmands, mais que des bonnes choses. Mangez plus de sardines. Et...
voilà, mettez un peu d'amour, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. C'est ça aussi hein, qui nous lie tous, c'est se tourner vers les autres. Qu'est-ce que serait cette vie sans les autres, hein, les gars? Voilà, voilà, je vous aime tous. On s'est régalé.
Oui.
Le H, tu reviens quand tu veux, t'es à la maison ici.
Avec plaisir, bah, je pense qu'on peut en refaire dans un an. Non, c'est vrai, parce que le dernier, ouais. C'était il y a un an et demi, je crois.
Pourquoi pas en faire en direct? On a fait en sorte de pouvoir créer un studio. Si jamais, t'es à Dubaï, c'est ça?
Ouais.
Putain, il faut qu'on vienne te chercher à Dubaï ou des fois tu viens un peu dans le coin là?
Je viens, mais à Paris.
Ouais, ça c'est
pas ça. Ça s'organise, ça.
Ouais, c'est pas trop compliqué. Faudra trouver le bon timing.
Bon, merci, c'était à 1000%. Et puis,
les auditeurs.
Les gars, merci à vous.
Claquez-nous des trucs.
Mes abonnés qui se retrouvent sur cette chaîne, allez vous abonner à 1000%.
Allez.
Regardez leur podcast pendant le cardio.
Et idem pour les abonnés de 1000%, allez suivre le H. Il y a plein de vidéos de conseils sur les mouvements de musculation. Moi, j'avais regardé à l'époque des vidéos avec, je crois que c'est Louis, où tu faisais des conseils de placement qui étaient top, quoi. Des conseils sur les tractions, le tirage horizontal, sur le développé couché. Il y a tous les mouvements disséqués.
J'ai tout traité, là.
Ouais.
J'ai mis des vidéos d'exécution de mes élèves. Pas pour me foutre de leur gueule, absolument pas, au contraire.
Oui, oui.
Et je montrais les corrections. Parce qu'au-delà de ne pas prendre de muscles, tu favorises des blessures.
Oui, c'est le garde-fou de la technique hein, qu'on a parlé au tout début hein, de ce podcast.
Oui.
Exactement.
Bon,
le
merci.
Savoir, c'est pouvoir.
Merci, faut qu'on s'arrête, sinon.
Et oui.
Ouais, les amis.
Allez, ciao, salut, à la prochaine.
À bientôt.
Et à bientôt. Ciao, les gars.